bienvenue dans Il faut qu'on parle, un podcast, le podcast, je ne sais pas, je t'essaie si c'est un podcast
au hasard. Podcast. Le podcast, on t'a dit. Affirme.
Ce podcast, hein, comme ça tu.
Ce podcast, ça ne veut rien dire.
Oui, c'est ça, ça ne veut rien dire.
Bienvenue dans Il faut qu'on parle, ce podcast qu'on est en train de enregistrer
aujourd'hui. Si, ça, justement, ça veut tout dire.
Ok. Bienvenue dans Il faut qu'on parle, le podcast consacré aux séries et tout ce qu'elles nous inspirent. Nous sommes en 2016 et nous attaquons le flux incessant de nouvelles séries américaines et autres, mais nous voulions donner un enterrement digne de ce nom à l'année série 2015 et parler à plusieurs de ce qui nous a personnellement marqué durant ces 12 mois. Pour éviter l'effet catalogue, on va faire plusieurs tours de table avec nos invités. Autour du micro avec moi, j'ai le plaisir d'avoir mon copilote préféré, Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Notre productrice elfe de Noël junior, Juliette. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Et nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois une de mes meilleures amies, la très cinéphile et sériephile Léa. Bonjour Léa.
Bonjour Yael.
J'aurais demandé d'être enthousiaste, on peut dire qu'ils ont bien suivi la consigne. Alors je voudrais commencer avant qu'on parle de ce que... Enfin qu'on enterre 2015.
Crève 2015, crève.
C'est un peu l'esprit général. Mais on va commencer par une question d'un de nos auditeurs fidèles qui nous parle beaucoup sur Facebook et on en est très heureux, c'est Hush Frozen. Et en plus, j'adore ton nom parce que clairement, entre Buffy et Frozen, mon cœur balance.
Ok, j'ai une théorie. En fait, c'est toi.
Hush Frozen, prouve que tu n'es pas moi. En fait, suite à nos conseils, il a regardé Friday Night Lights. Je dis il me semble que tu es un garçon, si c'est pas le cas, je m'en excuse. Il a regardé Friday Night Lights, il a fini la première saison, ça lui a beaucoup plu et il n'a pas pu s'empêcher de penser à Grey's Anatomy, notamment en termes de, ben, en fait, de groupes larges, divers, où on suit plein de personnages dans un lieu spécifique, que ce soit l'hôpital de Grey's Anatomy ou la ville dans Friday Night Lights. Apparemment, il a émis cette théorie à quelqu'un qui a fait bon nom, et donc il voulait savoir ce que nous, on en pensait. Et donc, effectivement, qu'est-ce que ça vous dit, vous, comme comparaison?
Je peux répondre déjà juste en préambule. Bossy.
Voilà, donc déjà, tu es... Voilà, Bossy.
Alors, en préambule, moi, je tiens aussi à dire que je ne pensais jamais que... comparer Friday Night Lights avec Grey's Anatomy, mais qu'en fait...
C'est... Ça fait sens.
Voilà, il y a un sens dedans et c'est pas aussi...
ridicule
voilà, que ça peut y paraître.
Quelque part, c'est un petit peu comme comparer Game of Thrones et Dallas.
Exactement. Ouais.
C'est le même principe.
Ouais. En fait, c'est un format très similaire, c'est juste que c'est l'esthétique est différente, quoi.
C'est ça. L'esthétique, la façon d'aborder les choses aussi.
Et en même temps, la musique, tu vois, le rapport à la musique, clairement,
oui, très
présent dans les deux. C'est pas Pat Savas qui s'occupe de la musique de Friday Night Lights, mais il y a plein de groupes en commun, il y a des chansons en commun. Donc, il y a vraiment plein de le fait de, voilà, de l'émotion, en fait. C'est parce que c'est des ensembles. Et tout la trame est basée sur des tournants émotionnels forts.
Ben déjà, les deux sont des soaps, déjà, de toute façon. Comme quoi, soap, c'est pas un gros mot non plus, étant donné que Friday Night Lights est considéré comme une grande série, mais c'est un grand soap. Et tout tourne autour d'une arène. Voilà. Donc c'est des séries sur une arène. Donc l'hôpital d'un côté, le football américain universitaire de l'autre, mais... ça reste
pas universitaire, c'est au lycée.
C'est au lycée.
mais c'est surtout.
Le football à l'école.
C'est des séries qui parlent de la vie, tout simplement. Et qu'on n'est pas dans le procedural où on va avoir un mystère à résoudre sur un épisode. Là, on va parler des sujets de société sur des sujets de notre vie de tous les jours. Et que donc, forcément, bah, y a des échos dans Friday Night Lights. Comme dans Grey's Anatomy, mais ensuite qu'on peut retrouver dans Gilmore Girls, qu'on peut retrouver dans Everwood, qu'on peut retrouver dans Buffy.
Bien sûr. Mais en plus, le lien, c'est des équipes.
Oui,
il y a le côté, on est une équipe, on est tous liés les uns aux autres, on compte les uns sur les autres pour faire notre travail, pour remplir notre rôle, il y a une hiérarchie, parfois remise en cause. Donc tu vois, Hush Frozen, plus on y réfléchit,
plus on est d'accord.
Mais bien sûr.
Même si ça paraît surprenant dans un premier temps.
Voilà. Donc voilà, tu es complètement vindicated, comme on dit en anglais.
Validée.
Merci, Léa, traductrice personnelle que j'ai employée pour l'occasion. Bon, alors, donc, Hush Frozen, j'espère que cette réponse t'a satisfait. On va commencer à parler 2015. Donc, comme je disais, je ne voulais pas faire catalogue, donc on ne fait pas chacun notre top 5.
Ah mince.
Juliette et moi, on a déjà parlé dans le spécial fait un peu de trucs de série. Donc là, je voudrais juste... En fait, j'ai quatre questions et je vais vous poser chaque question à chacun, et moi compris. Et ça va donner un peu une idée des tendances et des trucs marquants de l'année. La première question que je vais vous poser, c'est votre plus belle surprise ou le retournement le plus spectaculaire, c'est-à-dire un truc que vous détestiez, que vous adorez maintenant, ou vice-versa. Alors, si vous en avez une grosse, vous pouvez en parler. Si vous en avez plein de petites, vous pouvez les évoquer aussi, en essayant de ne pas tenir 5 heures, parce qu'on sait qu'on a plein de choses à dire sur les séries. Léa, tu commences à ton retournement, ta surprise.
Alors, ma plus grande surprise de cette année, pour moi, c'est en tout début d'année, c'était Galavant, où je suis devenue mais absolument fanatique. Et ce qui est très surprenant, c'est que par essence je déteste les comédies musicales, donc Galavant n'était sur papier pas du tout pour moi. Et bon, vu le cast, vu les scénaristes, et puis vu aussi l'engouement que ça avait avec des personnes autour de moi, j'ai quand même...
On a beaucoup chanté Galavant ensemble.
Vous m'en avez aussi beaucoup parlé avec un enthousiasme très... Vous en êtes beaucoup parlé entre vous aussi. Donc je me suis dit que j'allais quand même essayer de voir ce qu'il en était. Et je dois avouer que depuis, j'ai revu la saison un peu plus qu'une seule fois. Donc voilà ma grosse surprise de l'année. Ça a été Galavant.
Non, puisqu'il y a bien avec Galavant, c'est justement que c'est typiquement le genre de série musicale que tu peux montrer à quelqu'un qui supporte pas les séries musicales, parce que on est dans le pastiche, on est dans...
Exactement,
la parodie,
ouais.
Donc ça plaît à ceux qui aiment les comédies musicales, qui sont pas étrangers au fait du pastiche dans les comédies musicales, et ceux qui n'aiment pas ça se disent ah bah c'est bien, ça se moque un peu quand même.
Ouais, j'ai très très envie de le voir, moi je l'ai pas vu, et
en plus c'est 8 épisodes.
Et justement, je suis pas non plus très fan de comédies musicales, du coup
et
ça
n'a
rien à voir.
C'est...
J'ai vu quelques trailers, ça a l'air très très bien.
C'est une comédie musicale qui te fait dire que tu peux peut-être aimer, même si c'est ce genre particulier, ouais. Mais tu peux peut-être aimer.
Mais d'ailleurs, et t'avais repéré au bout d'un moment qu'il y avait des auteurs communs avec...
Avec The Neighbors, notamment. Ouais.
The Neighbors, qui avait un épisode musical,
voilà.
Hallucinant.
Et que j'avais trouvé extraordinaire déjà à ce moment-là. Et donc, c'était pour ça aussi que j'y allais pas totalement les yeux fermés dans Galavant.
Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'aux États-Unis, ça n'a pas du tout le même effet. Enfin, chez tous les blogueurs, machin, il y a eu un effet nettement moindre de cette série sur les gens. Je pense que c'est parce qu'ils ont beaucoup plus la culture du pastiche comédie musicale, notamment à travers Broadway, les trucs de Broadway, et que ça fait longtemps qu'on joue avec ces codes-là chez eux, et donc du coup ça les a moins surpris, alors qu'un public français qui n'était pas habitué, parce que par exemple Into the Woods, qui est ma comédie musicale préférée, qui a été faite de façon complètement ratée, parce qu'ils ont raté toutes les blagues au cinéma l'année dernière.
J'ai bien aimé.
Ouais, bah si t'avais vu l'original,
oui,
Broadway. En fait, en gros, les trois quarts des blagues, ils les juste les disent pas bien comme il faut pour que ce soit drôle. Donc voilà, c'est pas drôle. Et c'est clairement déjà cet esprit-là. Et la pièce de théâtre datait de 1986. Donc déjà, enfin évidemment, du coup, Galavant arrive en 2015. Pour la plupart des Américains, ouais, mais c'est bon, j'ai déjà fait ça au lycée, quoi. pour nous, c'était vraiment. Enfin, puis de toute façon, et la saison 2 vient de commencer. C'est un vrai plaisir.
Exactement.
Non, puis il n'y a pas de hasard, hein. Si c'est sur une chaîne majeure américaine, c'est aussi parce que c'est un genre qui est populaire et qui marche très très bien aux États-Unis et qui est admis. Nous, on ne mettrait pas un pastiche de comédie musicale à 20h50 ou à 21h à la télévision, c'est pas possible.
Enfin, en même temps, personne n'a regardé. Hein. Ils ont mis 8
épisodes. Oui, mais ils l'ont mis quand même à l'antenne.
Non, mais ils ont 8 épisodes sur 4 dimanches, donc 2 épisodes par soir. Pile au moment où il y avait, c'était quoi, un dimanche il y avait les Golden Globes, un dimanche il y avait un match de foot, un dimanche il y avait je sais plus quelle finale, enfin en gros c'était les 4 soirs morts de toute façon, et ils ont foutu Galavant de la série. C'est ça que la plus belle surprise de 2015, c'était qu'ils aient renouvelé Galavant.
Voilà. Ouais. Mais enfin, oui, mais même de toute façon, chez nous on l'aurait même pas mis à l'antenne,
non, bien sûr, ouais.
de prime abord, parce que c'est un genre qui a pas de prise sur nous, quoi.
Juliette, surprise, retournement.
Surprise, c'est une mini-série qui est Flesh and Bones.
Ah oui, j'en entends parler beaucoup sur...
Voilà, j'en avais entendu un peu parler, j'avais très envie de voir ce que c'était, et c'est vraiment la série que je retiens de 2015, qui m'a le plus marquée. C'est la réalisatrice s'appelle Moira Wallet-Beckett. Du coup, c'est une femme, et je pense que c'est important pour la façon dont... Donc c'est une série sur la danse, sur une école de ballet. Et c'est très très noir. C'est un peu, pour moi, c'est un peu un conte d'Andersen. C'est vraiment traité sous la forme du conte, avec des personnages qui ont des caractéristiques de héros, de anti-héros, etc. Il y a plein d'espèces de petits mystères, un petit peu. Enfin, c'est très très poétique dans la façon dont c'est filmé, la photographie, etc. C'est vraiment C'est très très beau, c'est très très... En fait, c'est les couches de noirceur sont révélées petit à petit. C'est de pire en pire. Et en même temps, c'est magnifique. Et
devriez voir le regard de passion et de bonheur qui illumine le visage de Juliette quand elle dit les couches de noirceur se révèlent l'une après l'autre.
C'est avec le ton aussi. Et ça devient déprimant.
Et regarde ça. Oui. Pour Noël, c'était trop bien.
Et l'actrice principale est une danseuse à la base qui n'est pas du tout comédienne. Et elle a du coup beaucoup de candeur dans sa façon de jouer. Elle n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de. Elle n'a pas appris à jouer. Et je trouve que ça. Voilà, ça lui donne beaucoup de charisme et beaucoup de. Ça rajoute de la force, ouais, d'authenticité à la série.
Mais c'est le cas de la majorité du cast en fait. Ils sont
oui,
tous,
d'après ce que j'ai
ils sont tous danseurs professionnels. Ouais. Certains ont joué un peu avant, mais c'est vrai qu'ils sont avant tout danseurs.
Ouais.
Avant d'être comédien.
Tu l'as vu, toi ?
Moi, j'ai vu. Et
ça,
je
toi, t'as un rapport à...
Moi, j'ai un rapport aussi à la danse. J'aimerais qu'on voit enfin des bonnes séries ou des bons films sur la danse. J'ai pas du tout accroché,
Footloose,
par contre.
Non.
Footloose, exactement, qui est évidemment dans le Panthéon. Non, moi, j'ai pas du tout accroché avec Flesh and Bones. Je sais que beaucoup ont trouvé que c'est une très bonne série et je pense qu'on n'a pas vu la même copie, en fait. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de clichés dedans. Il y a des choses qui sont très intéressantes, des thèmes abordés qui sont très intéressants. Mais dans l'absolu, j'ai eu l'impression qu'on traitait du vide. Et j'ai trouvé que c'était dommage. En revanche, la photographie, la manière dont c'est filmé est en effet spectaculaire et magnifique.
D'accord, donc, parce que juste ici, je me disais, en fait, elle a revu Fame. Mais si tu dis que la photographie
non,
est belle...
Non, la photographie est très belle. Et puis notamment, je trouve que le générique est splendide.
Le Fame des années 80, là.
Ce grand film ?
Non, la
série. J'ai eu très peur. Oui, non, d'accord, ok.
Qui me déprimait à chaque fois qu'elle était diffusée sur France 3. Oh...
Bon, ta surprise, ton retournement. En fait, personne n'a de retournement, je m'en ai surprise. Bon, c'est pas grave, c'était une bonne idée pour l'année prochaine. Vas-y.
Je suis partagé entre deux parce qu'il y en a une que j'ai vue en entier mais dont on a déjà parlé et l'autre que j'ai pas vue en entier dont on n'a pas parlé.
Bah, dis,
donc je vais faire les deux.
Voilà. Hein,
vraiment l'excellente surprise, c'est Unreal cette année, dont on a parlé début septembre, donc déjà dans ce podcast. Donc. Je vais vous renvoyer à ce podcast pour entendre mes arguments sur la série, mais globalement, j'ai trouvé ça vraiment excellent, vraiment génial. Et je suis impatient de voir la saison 2, pour le coup, plus que de voir la saison 2 de Mr. Robot, dont je ne nie pas les qualités, juste j'ai plus envie de retourner dans l'univers d'Unreal.
C'est ma résolution de 2016, une de mes résolutions, c'est je ne regarderai pas les épisodes que j'ai pas vu de Mr. Robot, parce que je m'en fous.
D'accord.
Et j'apprécie que d'autres gens aiment, et je suis contente que... Voilà,
ouais, mais je comprends très bien pourquoi les gens ont trouvé ça génial et tout, je vois très bien les raisons. Mais bon, tout ne me touche pas, et je trouve qu'Unreal, même s'il y a une certaine répétition dans les problématiques... je l'ai trouvée plus authentique et plus plus captivante en fait. Je pense
plus
que ça tient.
Real.
Trop joli. Mais ouais, il y a ça. Donc,
mais c'est vrai que ça faisait déjà quand même très plaisir de voir deux personnages féminins dans ce rôle de anti-héros. Quoi.
Et anti-héros sans être vraiment anti-héros.
Non, sans l'être,
c'est...
mais avoir des couches de. Donc il y avait des couches de noirceur dans Flesh and Bone. Là, c'était des couches de gris et puis toute la palette de gris qui existe dans un être humain, tout simplement.
Mm-hmm. Ouais. Et l'autre série, et là, je suis pas allé au-delà du troisième épisode pour des questions de... je sais pas, de la vie. C'était une série suédoise que j'ai découverte à Sérimania qui s'appelle Hjortskott.
Nous l'épellerons dans le poste.
Voilà.
Nous l'écrirons, quoi, dans le poste.
Comme vous l'imaginez, il y a deux voyelles et 22 consonnes. Sur
et deux voyelles est en haut.
sur une enquêtrice qui a perdu sa fille quand elle était très jeune et qui revient plus ou moins dans la ville où elle a disparu pour relancer l'enquête parce qu'il y a une autre disparition qui vient de survenir. C'est dans un univers réaliste l'immersion du fantastique. C'est visuellement sidérant. Alors oui, c'est de la série suédoise, c'est de la série nordique, donc l'image est froide, Ok, c'est à peu près le lot commun de toutes les séries de là-bas, mais c'est aussi la lumière du pays qui veut ça, donc c'est pas non plus hyper choquant, mais du coup c'est très beau. Il y a des plans de forêt comme ça, avec une sorte. T'as toujours l'impression d'être entre chien et loup dans tous les plans, même s'il fait jour. T'as toujours l'impression d'être à l'aube ou au crépuscule. Donc c'est très très beau. Les comédiens, j'ai du mal à juger les comédiens suédois parce que je connais pas bien, je maîtrise pas bien la langue, mais ils habitent vraiment leur rôle et ils ont un réel charisme. Du coup, c'est une série. Je suis allé jusqu'au troisième épisode, deux vues sur grand écran, un vu sur comment dire sur un écran de télévision. Je trouve toujours ça aussi beau, aussi fascinant. J'en reparlerai un jour, pas pour l'instant, c'est un peu ridicule de juger sur trois épisodes, mais sur les trois que j'ai vus, c'est vraiment une série que je conseille, qui est pour l'instant pas diffusée en France, qui est pas distribuée non plus, qui n'est visible évidemment qu'illégalement, avec des sous-titres anglais, donc on peut pas vraiment dire que ça soit une série facile d'accès. Maintenant, j'ai vu que MyTF1 Vidéo offrait au visionnage gratuit des épisodes de séries coréennes. Bah, j'ai envie de dire, allez-y aussi franco pour les suédoises de temps en temps, ça ferait plaisir à voir, d'avoir une option légale pour voir ce genre de série. Donc, c'est une série que je conseille vraiment. Après, on la verra quand on la verra, quoi.
Alors moi, on s'en souvient, hein, Léa, on l'a vu ensemble
Zaymania, oui.
C'est fascinant.
On était là, j'arrive pas à croire que ce truc qu'on a l'impression d'avoir déjà vu, en fait, ça nous plaît
mais
autant.
C'est ça, parce que mais tu c'est... dis, c'est... ah, c'est Twin Peaks.
Non, mais tu dis, c'est un truc scandinave avec
une enquêtrice,
une enfant, machin. Et en fait, t'es là.
Et non.
Mais ça m'intéresse. Et puis, il y a clairement un truc surnaturel un peu chelou.
Il y a clairement un truc surnaturel.
Ah oui, oui, et puis ça s'amplifie sur l'épisode 3.
Ouais. Et ben, je me souviens, en plus, nous, on ne pouvait pas rester sur la totalité du second épisode. Donc, on avait commencé le second épisode et on est parti vraiment au bout de 30 secondes parce qu'on s'est dit... ça va être encore plus frustrant si on continue à regarder qu'il va falloir qu'on parte, donc c'est... autant partir tout de suite.
Mais cette frustration, même si j'ai pas donné suite pour l'instant, cette frustration existe toujours et je trouve j'ai pas perdu mon appétit. Moi j'ai rarement peur face à des séries télé, même de façon large face à des films, et là je trouve que c'est pas vraiment de la peur, mais il y a un côté malsain et un côté angoissant dans ce qui se passe. C'est très sous-jacent, c'est pas du tout frontal, c'est pas d'un seul coup quelque chose va surgir dans votre écran avec un grand renfort de violon bien stressant. Non, c'est quelque chose de plus sous-jacent et de plus dérangeant. Donc c'est vraiment une série assez fascinante. On rigole pas. Non, soyons clairs, c'est pas la grosse déconnade.
C'est toujours un peu drôle parce qu'ils ont clairement un style de vie différent du nôtre.
C'est sûr.
Il y a toujours des moments où t'es là, ok. Enfin, c'est moins pire que les Russes, mais.
Mais là, c'est vrai que l'angoisse n'est pas drôle, contrairement à beaucoup de films ou de séries américaines où l'angoisse, il y a toujours un moment où ça déborde un petit peu et on sent qu'il faut rire pour lâcher cette angoisse. Là, l'angoisse est assumée jusqu'au bout et elle est tellement. Elle est tellement sous-jacente qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et donc à partir de là, on ne peut pas en rire pour s'en débarrasser.
Voilà, et c'est pas justement parce que le problème aussi des séries qui se prennent un peu trop au sérieux, c'est que tu vois du noir, du noir, du noir, du noir, du noir, et au bout d'un moment, tu te marres parce que tu trouves ça ridicule et parce que tu avais envie. Là, non, en fait, c'est tellement subtil que ça passe et t'as pas l'impression, oh, putain, il commence à arrêter un petit peu, là, c'est noir. Non, c'est juste. Je pense aussi, c'est parce que c'est fait de manière organique. Ça avance progressivement. Bah, elle réagit comme ça parce qu'elle devrait réagir comme ça. Il interagit avec elle comme ça parce qu'il devrait interagir avec elle comme ça. Il n'y a pas de gratuité ni dans la noirceur, ni dans un humour forcé qui n'aurait pas sa place à cet endroit-là.
Et il y a un vrai travail d'écriture derrière.
Il y a un vrai travail d'écriture, ce n'est pas que visuel. Hein. Ouais. C'est au niveau du travail d'écriture des personnages, c'est vraiment fascinant. Quoi. Donc voilà, bah, écoutez, je me donne... George Scott
avec l'accent et tout.
Alors George Scott avec un J au départ
et deux T à la fin.
Je vous et me conseille de la voir jusqu'au bout.
Donc moi ma surprise, enfin en fait mes surprises, bien sûr, c'est pas l'année du retournement. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des trucs que je détestais que tout d'un coup j'adore, hein. Mais ou le contraire. Mais là cette année c'est plus les surprises, et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai fait mon top 10 pour test, j'ai choisi de parler de 10 nouveautés de l'année, et donc en fait c'est mes 10 surprises, elles sont dans le top 10. Jessica Jones, on va en parler plus précisément, on vous l'avait promis, on va le faire. C'était mon premier numéro. Ensuite il y a Banana and Cucumber de Russell T. Davis, il y a Adam Ruins Everything qui est presque de la non-fiction, même si c'est très scripté, que j'adore. Voilà, tout un tas de nouvelles séries qui m'ont surpris, mais j'avoue que celle qui m'a le plus surprise, dans le sens où je pensais pas pouvoir être satisfaite vu mes attentes, c'était la série de Aziz Ansari et de Alan Yang, Master of None, parce que je suis fan de Aziz Ansari depuis un certain temps, que j'ai regardé tous ses stand-up, et quand j'ai découvert qu'il avait écrit, enfin, comme chose, certaines séries à Netflix dont on n'entend pas parler, tout d'un coup, c'est partout, était là. Comment je savais pas que Aziz Ansari était en train d'écrire une série? Et donc, c'est une série écrite par Aziz Ansari et Alan Yang, qui est un ancien. Donc, Aziz Ansari qui jouait Tom dans Parks and Recreation. Alan Yang est un ancien auteur de Parks and Recreation. D'autres gens aussi, notamment Mike Schur, sont associés à la série. C'est une comédie à 10 épisodes, c'est sur Netflix. Et c'est l'histoire d'un comique qui. Enfin, un comédien, c'est pas un comique justement, un comédien qui fait son argent en bossant dans des pubs, donc qui a en fait une vie assez confortable, mais n'a pas vraiment de réussite. Il y a quelque chose de très fort d'ailleurs dans l'idée que ce que c'est que d'être un comédien qui réussit financièrement, mais qui en fait ne s'épanouit pas du tout dans son art, hein. Joué par Aziz Ansari, et sa vie et son rapport en fait au monde moderne. C'est Aziz Ansari est hyper intéressé par le monde moderne, dans son stand-up il en parle beaucoup, mais il a surtout écrit un bouquin cette année avec un sociologue qui s'appelle Modern Romance, qui est vraiment une étude de comment les nouvelles générations gèrent les questions de vie amoureuse. Et ça a été écrit vraiment dans une perspective sociologique, c'est-à-dire qu'ils ont pris des groupes de discussion, ils ont créé des groupes de discussion dans plein d'endroits, aux États-Unis mais aussi à l'étranger, ils sont allés à Paris, ils sont allés en Argentine, ils sont allés à Tokyo, ils ont allé dans des hospices pour parler aux personnes de plus de 80 ans de comment eux ils avaient rencontré leur partenaire, de ce qu'eux ils pensaient du mariage. Enfin, il a un vrai intérêt pour la vraie vie, et ensuite il fait des blagues. Et Master of None, il y a vraiment ça, c'est-à-dire que c'est drôle mais c'est très touchant. Et le but de Master of None, c'est vraiment le personnage de Aziz Ansari qui est face à des questionnements qui arrivent quand on arrive à un certain stade de la vie adulte sur est-ce que mes amis qui ont des enfants sont heureux, est-ce que je prends au sérieux mes parents, ça c'est un autre épisode, puis des choses plus personnelles par rapport notamment à un épisode dont tout le monde a parlé qui s'appelle Indians on TV, sur le fait que ce que c'est d'être un acteur indien dans l'industrie américaine. Et après il y a aussi un épisode super sur les femmes et sur le rapport au féminisme pour un mec, et ce qui est hallucinant c'est qu'en fait un personnage masculin dans une comédie qui est émotionnellement mature, c'est-à-dire qu'il est égoïste, il a plein de soucis, mais quand il est face à un questionnement il fait pas un caprice, il fait ah bon, je savais pas, qu'est-ce que je peux faire pour apprendre, ah bah je vais essayer d'être quelqu'un de mieux. Et c'est de la science-fiction en fait. C'est ça qu'on a oublié de dire sur Master of None. Je pense que c'est lié au fait qu'il soit indien et que du coup malgré tout il y a une espèce de décalage qu'il a toujours eu avec la culture populaire. En fait c'est pour ça on dit toujours, je suis désolée Dominique je le répète, mais ces pauvres mecs blancs hétérosexuels, on leur reproche beaucoup de choses.
Je vais vous laisser 5 minutes.
Mais non, mais c'est tout simplement parce que la culture leur ressemble, et donc du coup ils n'ont pas ce décalage qui leur fait se poser d'autres questions que bah, tous ceux qui ne sont pas inclus dans la culture populaire doivent négocier constamment. Et là je trouve que ça donne un truc. Alors il y a des gens qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent ça trop gentil. Moi ça ne me dérange pas les comédies gentilles. Il y a des gens qui trouvent ça trop. Alors, il y a certains Américains qui n'aiment pas parce que c'est trop hipster. Tu vois, la première chanson, c'est Paris s'éveille de Jacques Dutronc. Ça, c'est le début du premier épisode. Donc là, tout de suite, tu vois, oh là là, ça, c'est New Yorkais. Tout ça, c'est les Américains qui trouvent ça chiant, qui soient trop hipster.
Ah, Wes Anderson, sort de ce corps.
C'est ça. Donc il y a un truc. Mais il y a un truc comme ça, moi, je trouve ça hyper agréable. Il y a un jeu sur la musique. Et effectivement, c'est hipster, mais clairement, Aziz Ansari est un hipster. J'ai un ami qui habite New York, qui allait dans son favorite noodle shop, donc où ils font les nouilles asiatiques eux-mêmes, qui est un petit truc, un petit boui-boui, mais hyper réputé chez les hipsters, et il est tombé sur Aziz Ansari à la table d'à côté en train de bouffer ses nouilles. Je veux dire, n'ayons pas aucun doute, c'est vraiment comme ça qu'il est, c'est sa vie, c'est son monde.
Ça serait comme de reprocher à Woody Allen de parler de l'univers qu'il connaît, quoi.
Mais en fait, c'est ce qu'on reproche. Et au-delà de ça, Master of None, il y a aussi une simplicité dans la façon dont on parle de certains sujets, dont l'écriture est. Enfin, il y a quelque chose de simple et de naturel dedans.
Mais c'est
qui
ça,
est aussi
c'est
très agréable à voir, où il n'y a pas de retournement de situation.
Pas par quatre chemins,
non, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a, et on n'a pas besoin d'aller gratter pour comprendre un sens caché.
Oui, c'est ça, c'est pas une allégorie en fait. Et d'ailleurs, effectivement, tu dis, il y a un truc génial, c'est que les personnages ne réagissent pas comme des personnages de série.
Non, non, ils
réagissent comme des vraies personnes.
Ouais. Oui, c'est très souvent. J'en ai vu 3 épisodes, mais effectivement, je vais continuer parce que.
Ah non, mais et la fin, et la dernière phrase, je dis juste, la dernière phrase est géniale. Le dernier moment, la dernière phrase, c'est là. Putain, jusqu'au bout, en fait, ça te surprend.
C'est pour vous donner envie de regarder jusqu'à la fin.
Non, l'avant-dernier épisode, j'ai énormément aimé. C'est un truc sur le couple. Et c'est tellement intelligent dans la façon de séquencer. C'est tellement inattendu et différent de tout ce que t'as vu.
C'est une attaque pour moi parce que j'ai pas fini George Scott, c'est ça.
Exactement.
Non, c'est comment t'as pas encore fini Master of None alors qu'il y a notre cher...
Je l'ai pas commencé. C'est ça mon excuse.
Comment il s'appelle? Je sais pas son nom. Archer.
Oui, d'accord. John H. Benjamin.
Et il joue son... Et d'ailleurs, c'était très perturbant. Au début, j'étais là, c'est qui ce mec? Pourquoi je connais sa voix? Et là, j'étais là, oh, c'est trop perturbant de voir Archer.
Ah merde, c'est pas un beau gosse en tant que
mec. Non, mais par contre, en fait, il est aussi drôle. Parce qu'en fait, c'est Archer. C'est vraiment incroyable. Donc, Master of None, surprise, enfin, délice absolu. En plus, écouter des interviews sur comment ils l'ont écrit, sur comment ils ont travaillé dessus, sur comment ils y réfléchissent. C'est vraiment... En plus, c'est des gens tellement sympas. Tellement gentil, t'as juste envie de soutenir. Et enfin, moi, voilà, c'est ma belle surprise 2015.
Alors, je voulais juste, avant qu'on passe à la question suivante, mettre une mention spéciale dans Belle surprise et révélation quelque part de 2015. C'est les late night shows, notamment avec le renouvellement sur Comedy Central de The Daily Show qui a donné. Enfin, Jon Stewart a quitté The Daily Show pour laisser sa place à Trevor Noah. Qui remplit le siège parfaitement.
On en a parlé dans le numéro spécial des fêtes où j'ai parlé de Colbert.
Mais je voulais principalement mettre en avant The Nightly Show, qui donne une approche, cette fois-ci, donc, qui est The Daily Show, mais avec un regard de la communauté noire américaine.
Et d'ailleurs, au-delà de ça, parce qu'en fait, les panels sont de toutes les couleurs, de toutes les appartenances, de toutes les orientations. Mais je pense que ça serait...
Ce serait intéressant
de faire un podcast spécial late night où on parlerait de tout le monde.
Mais c'est vrai que
Léa, le grand bénéfice de regarder les mêmes trucs que moi.
Voilà. Et où je viendrais dire juste bonjour, le truc que préfère Yael dans mes interventions. Je viendrais juste dire bonjour.
Et en même temps, soyons clairs, quand on dit late night, en fait, on fera Comedy Central et Comedy Central Affiliate.
En fait, on fera The Legacy of Jon Stewart.
Voilà, exactement.
Tous les gens qui ont bossé avec Jon Stewart. Mais non, mais je veux parler de Fallon et de Kimmel aussi.
Non, ça, malheureusement, je ne regarde pas.
Donc, la question suivante, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Je voulais vous demander, c'était quoi votre obsession solitaire en termes de série?
Oui, parce que là, on va passer au moins de 18 ans.
Je voulais le dire parce que je trouve que c'est...
Enfin, Léa, ça va, c'est juste remettre droit les attaches câbles du...
Je sais pas comment ça s'appelle ce truc.
Un attache câble
Vous savez, les fils de fer,
Non, mais les trucs qu'on tortille pour accrocher les câbles ensemble. Non, j'explique pour les
auditeurs. C'est une sorte de fil de fer,
La passion de Léa, c'est de les détortiller.
Oui, et puis je n'y arrive pas totalement, ils ne sont pas parfaitement droits.
Je viens de m'apercevoir que ça doit être dur pour toi d'entendre passion et Léa et que tu as dû l'entendre... assez souvent dans la même phrase.
C'est pas grave, on s'y habitue.
J'ai pas compris la référence.
Moi non plus.
C'est un jeu vidéo, Léa Passion, en fait.
C'est là qu'on voit. Donc on vient de révoquer notre carte geek.
C'est
clair.
C'est des jeux DS pour les filles. Et c'est Léa Passion, genre l'équitation.
Parce que c'est pour les filles.
Parce que c'est pour les filles. Il y a pas l'escrime, c'est l'équitation, quoi.
Donc l'obsession solitaire, je pense que...
De Léa Passion.
Non, parce que s'il y a un truc chelou quand t'es sériephile et que t'es entouré de sériephiles et qu'en plus avec Twitter tu parles avec tous les autres qui sont pas à côté, que tu croises une fois par an à Sérimania ou à Comic Con, c'est que des fois tu regardes un truc que personne d'autre regarde, et ça peut être extrêmement triste quand tu es là, mais pourquoi vous regardez pas
ce donc, moment voilà. Où t'entends les criquets.
C'est ça.
Et machin, c'est génial.
Voilà. Mais d'ailleurs, dans l'épisode des showrunners que j'adore, où ils disent comment vous regardez les séries, il y a un moment à la fin où c'est regarder quand vous êtes le seul fan et t'es le seul à chanter le générique et tout le monde et personne chante avec toi. Léa, ton obsession solitaire?
Eh bien, écoute, moi j'en ai deux. Ma plus grande est The Goldbergs, que je trouve absolument hilarant, que je trouve aussi quelque part très simple, même si c'est une série méta. Par son contenu même, puisque c'est le réalisateur, enfin le créateur, qui s'inspire de sa vie et puis de vidéos qu'il a pu faire quand il était plus jeune.
Dans les années 80.
Donc il y a vraiment toute sa famille qui est représentée. Donc il y a quelque chose de très méta dans la série en tant que telle, et en même temps il y a une simplicité, on parle de la famille comme on pouvait en parler dans les sitcoms des années 80, mais c'est revu au goût du jour, donc il y a quelque chose de... C'est un produit très ambivalent, et en même temps moi qui me fait mais mourir de rire. Et apparemment, je suis la seule à trouver que ce soit aussi drôle, en tout cas de ce côté de l'Atlantique.
C'est ça, parce que ça a très bonne presse aux États-Unis.
Ça a très très bonne presse aux États-Unis, et bah, j'ai pas encore trouvé preneur. Non, en fait,
et j'ai essayé plusieurs fois. Je trouve pas ça mauvais, mais ça me touche pas.
Ça tient aussi sur le fait que en France, on a tendance à beaucoup s'arrêter au pilote, et il paraît que le pilote de Goldberg, c'est pas génial.
Le pilote est pas génial.
Et du coup, moi, beaucoup sont arrêtés.
Moi, j'ai regardé genre l'épisode 8, puis après, d'accord, j'ai regardé un autre de la saison 1, puis après, j'ai regardé la saison 2, et on est en saison 3 là.
On est en saison 3.
Et j'ai regardé un des premiers de la saison 3 aussi. Parce que je fais confiance à Léa, donc j'essaye. Et puis je sais ce que c'est que d'avoir une obsession solitaire. Et d'ailleurs, The Neighbors, elle m'a fait chier pour que je regarde. J'ai fini par regarder, j'ai fini par adorer et de partager la compréhension générale des autres. Et cette expérience-là. Et donc. Voilà,
regardez The Goldbergs, que je ne sois plus seule en France, s'il vous plaît. Non, et puis autre chose, moi, il y a The 100 aussi que je trouve absolument aussi fantastique. Donc, bon, qui est pas du tout dans la même catégorie, mais.
C'est une comédie aussi.
C'est pas du tout. Non, là, on n'est plus dans la comédie. Donc, c'est un monde post-apocalyptique, mais que je trouve aussi. Fascinant parce que c'est comme le disait Dom, c'est sur une chaîne entre guillemets pour ados, et en même temps il y a une vraie noirceur dans cette série, et où ils n'essayent pas de trouver des solutions faciles et des sorties de secours faciles. Ils font face à leur noirceur.
Tu n'es plus seule. Je suis avec toi.
Merci.
Il y a plein de gens qui en disent du bien, et le fait est qu'il y a des gens que je connais, dont je connais le nom, je ne les connais pas personnellement, j'aimerais bien, s'ils m'écoutent d'ailleurs, qui travaillent dessus, qui vont travailler dessus, comme Aaron Ginsberg, le réalisateur, qui est aussi le réalisateur de Thrilling Adventure Hour, de Javier Guillaume Marxwatch, qui a travaillé sur la dernière saison, ouais, qui maintenant fait le relaunch, le remake de Xena. Si.
Ils le font pour de vrai ?
Oui, oui, et c'est lui le showrunner.
C'est Xena ?
Ouais, et c'est lui le showrunner.
J'ai entendu, j'ai cru que c'était encore
Oui, moi je l'ai entendu.
C'est Ravi qui s'occupe de.
Non, parce que quand il a observé tout le truc à l'époque où j'en entendais parler, c'était que Lucie Lelès avait dit non, c'est pas possible, et quelqu'un avait écrit de façon très maligne dans l'article, mais elle en sait rien, parce que si c'est un remake, ce sera pas elle. Je dis oui, elle est un peu mariée avec le créateur original, donc c'est lui qui a les droits. Donc vu que son mec c'est le créateur de Xena, elle le saurait, tu vois.
Enfin voilà, Ravi en a parlé sur Twitter. Bon, à moins que ça soit une blague très élaborée qui dure depuis longtemps, c'est vraiment, du coup c'est pervers.
Bon, alors Xénith qui continue à me suivre, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce remake, sans être ça va être nul. Je comprends, moi j'ai dit pareil quand il faisait le remake de Buffy, mais dites-nous un tout petit peu plus.
Attention, parce que pour le coup le gars qui s'en occupe est quelqu'un de vraiment brillant et vraiment très bon, donc je sais c'est pas si ça va être bon, hein. C'est The Middleman, et c'est un scénariste extrêmement talentueux, et bon, ça peut capoter aussi, être très mauvais, mais c'est entre deux bonnes mains. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire.
Mais The 100, je vous rassure, c'est ma plus grande culpabilité, parce que j'ai vu les 5 premiers et qu'en fait j'étais très déjà.
On voit tout de suite. L'épisode 4, en fait.
Voilà, c'est ça. On voit tout de suite, dès les premiers, on voit tout de suite. À l'épisode effectivement 4, que ça monte d'un cran, c'est clairement Battlestar Galactica avec plus jeunes, mais du coup avec quelque chose de plus cruel aussi. J'ai eu l'impression, et du coup, et en plus on m'a dit que les personnages féminins étaient géniaux.
Voilà,
il y a Teaching Likeman qui joue dedans, que j'adore, The Dollhouse. Donc j'ai plein de raisons, c'est juste que j'arrive pas à tout regarder. Je lâche une série par mois et je n'arrive toujours pas à suivre. Et en plus, c'est que c'est cet abruti de Colbert qui fait une émission qui m'intéresse 5 fois par semaine. C'est une catastrophe.
D'une heure qui plus est.
Ouais.
Et puis c'est diffusé en France, et comme ça, on a la grande chance d'entendre certains téléspectateurs l'appeler 200.
C'est pas mal ça, j'avais jamais entendu.
Je te jure, 200.
Bah voilà.
Bon, Juliette.
Alors je ne sais.
Obsession solitaire.
Je sais pas si c'est solitaire, j'entends personne en parler. C'est limite guilty pleasure un peu. C'est Finding Carter.
Ah, j'ai regardé toute la première saison et la deux tiers de la 2. Non, un tiers de la 2, et après j'ai fait non. Mais
ouais, si j'arrive pas à la lâcher.
Ah oui, je comprends. Attends, moi je regarde une série.
Ouais.
Comme vous le savez.
si je dis que celle-là non plus, je la regarde pas, les gens vont finir par se rendre compte que je regarde pas de série, en fait.
Bah ça va, nous, arrête de nous dire que nous on n'a pas de vie, c'est bon. Ok, anyway. Et donc Finding Carter.
Donc Finding Carter. Je sais pas sur quelle chaîne ça passe.
MTV.
Ouais, MTV. C'est en gros, ça raconte l'histoire d'une. Elle est adolescente maintenant, qui s'est fait enlever quand elle était petite et qui est retrouvée par ses parents biologiques, sa mère qui est.
Alors qu'elle n'avait pas conscience qu'elle avait été enlevée.
Voilà, elle ne savait pas que pour elle, sa vie était. Enfin, elle était élevée par une mère célibataire. Elle était plutôt très heureuse. Et elle se rencontre brusquement dans un quiproquo qui l'amène au commissariat. Du coup, sa trace est retrouvée et ses parents, sa mère est policière, son père est écrivain. Elle a une sœur jumelle, un petit frère. Enfin voilà, toute une famille qui lui tombe sur les bras et bah, du coup qui la reprend. Et du coup, bah, c'est tout un travail sur la construction de l'identité, sur plein de problématiques liées à l'adolescence. Je trouve ça assez, assez juste comme série dans la façon dont les personnages sont construits. C'est touchant, après bon c'est...
C'est le côté retournement de situation.
Oui voilà, il y a un peu un côté retournement de situation et un peu tous les problématiques, un peu ça parle de drogue, ça parle de violence, ça parle de... Enfin voilà, tous les problèmes un peu...
Les teens...
Voilà, un peu récurrents. Mais il y a du cœur et je suis très attachée au personnage donc...
Mais moi c'est une question de temps hein, parce que voilà, une fois de plus comme je venais de vous le dire, j'ai pas le temps... Mais moi, j'avais beaucoup aimé le début. J'avais été constamment surprise, surtout parce qu'il y a des choses extrêmement touchantes, notamment le rapprochement qu'il y a entre elle et sa mère, qui est très difficile au début. Sa mère biologique, parce qu'elle adorait sa mère, qui en fait était sa kidnappeuse, et que du coup, en plus avec qui elle avait une relation hyper libre, qu'elle allait lui faisait pleinement confiance. Alors que sa mère biologique est flic, et en plus elle l'a perdue pendant un certain nombre d'années, donc elle est hyper flippée. Et qu'en fait, c'était de les voir, ces deux personnages, tomber amoureux, recréer un vrai amour maternel et filial. Et en plus, tu sens que c'est réel, quoi. Tu sens qu'elles apprennent à s'aimer comme elles sont. C'est extrêmement touchant.
Mais ça, c'est que dans la première saison, eux non plus ne se sont pas cachés du côté noir des sentiments et de la dureté
que cette situation pouvait
créer.
Mais de toute façon, j'ai toujours dit, les séries ados, finalement, c'est là qu'on trouve des trucs beaucoup plus.
Oui, oui.
Ben alors, t'as tout le kitsch qui va avec, mais t'as des trucs hyper forts. Je vous répète, regardez The Vampire Diaries, bon, peut-être pas les dernières saisons, mais regardez un peu quand même.
Les trois premières.
Non,
ça allait au-delà.
Il paraît que la nouvelle, il y a toujours quelqu'un pour me faire recommencer à regarder. Léa mime l'effroi et la panique. Je ne saurais pas vous décrire son visage, mais c'est.
Disons que je sais que Yael a réussi à arrêter The Vampire Diaries et la connaissance, si elle reprend.
C'est mort. Non, mais Finding Carter, on en est à la fin de la saison 2. C'est ça qu'ils l'ont fait, ils l'ont coupé en deux.
C'est
comme,
ça, c'est ça. Ouais. Et là, ça traite justement un peu les questions par rapport à sa kidnappeuse, la mère qui l'a élevée. On explore un petit peu les sentiments et justement l'évolution de je l'aimais, je suis censée la détester parce qu'elle m'a fait ça et finalement, elle est toujours là et elle m'a élevée. Et c'est vraiment intéressant. Et voilà.
En fait, moi, ça me fait... Ce que j'aime bien dans Finding Carter, c'est qu'il y avait un épisode de Life que j'adorais, qui est dans la saison 2 de Life, il me semble, où il trouve un gamin comme ça qui a été élevé par son kidnappeur et qui n'a aucun souvenir de ses vrais parents. Et quand ils se rendent compte à la fin, c'est un truc hyper fort. Et c'est que il y a une partie de toi qui dit oh, je me demande comment ça va se passer après. Et du coup, Fanny Carter, c'est
ouais, on a la réponse.
Toujours, moi, j'ai effectivement souvent lu des livres sur ça et toujours j'ai rêvé, mais je veux voir le après, quoi. C'est ça qui est hyper intéressant. Qu'est-ce que ça donne psychologiquement? Et deux arguments supplémentaires, dedans il y a Alexis Denisoff de Buffy.
Oui, mais son personnage est tellement bizarre, il faut savoir si tu vas le détester ou pas. Et je suis là, mais c'est pas possible, Alexis Denisoff, je peux pas le détester. Je peux détester dans How I Met Your Mother quand c'est un peu burlesque, mais là il est un peu.
Ouais, il est. C'est...
Il est slimy!
Ouais,
wow.
Et...
C'est un père bizarre.
Ah, ouais, il est toujours borderline, ouais. Et la.
Pas avec ses filles, je le précise, il est bizarre.
Non, sur plein d'autres choses. Et celle qui fait Carter, c'est Catherine Prescott qui jouait dans Skins.
Que j'ai vu. Vous avez Skins américain ?
Les saisons 3 et 4.
Anglaise,
oui, anglaise. Voilà.
Merci Juliette. Toi, ton obsession solitaire. Top.
Merci,
c'est tellement. Non, mais ça paraît tellement pervers quand je le pose comme ça.
La masturbation.
Mais moi, tu l'as dit, c'est bien. Maintenant,
comme ça, c'est fait. On peut passer aux choses sérieuses.
Ça a même été chanté, donc c'est bon.
Bah, tant qu'à faire.
Bah, écoute, ça peut.
Non, bah écoute, moi, vu que je suis, je cherche le truc encore plus pervers que la série qu'on regarde tout seul, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va la voir. Là, c'est de la série, mais audio. Donc, où là, je suis certain d'être tout seul à en parler et d'entendre des criquets pendant tout le long de la conversation, de voir des gens qui partent, d'autres qui meurent de vieillesse. Vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, j'aurais dit Thrilling Adventure Hour. Il y a 1 an, j'aurais dit Welcome to Night Vale. Il y a 3 mois, j'aurais dit The Black Tapes Podcast. Donc, ce sont des podcasts dont on a parlé dans notre podcast sur les podcasts. Ça fait beaucoup de fois à dire podcast.
Le pod des pods.
Mais depuis, je suis allé un tout petit peu plus loin, donc dans la même production que Black Tapes, c'est-à-dire je m'enfonce
tout,
dans les...
Tout ça a été trop connu, en fait.
Mais donc en fait, c'est pas que t'as une vie, c'est juste que t'écoutes des podcasts, c'est pour ça que tu regardes pas.
C'est juste que je fais autre chose en même temps, donc du coup, l'audio, c'est plus pratique.
Voilà.
Donc, par les mêmes producteurs que Black Tapes Podcast, il y a Tanis, donc, qui est la recherche d'une... d'un lieu mythique dont personne n'a entendu parler sauf dans des textes très anciens, et il y a des occurrences qui viennent dans le monde moderne qui surgissent, du genre on a trouvé ça, ou la phrase qu'ils disent c'est on recherche Tanis, on a un coureur disponible, c'est-à-dire quelqu'un qui va the runner, quelqu'un qui va trouver Tanis. Donc c'est la recherche de ces éléments-là sur ce qu'ils appellent le deep web, c'est-à-dire des trucs qui ne sont pas accessibles directement, ou des anciens documents, des papiers. Enfin, c'est assez fascinant. C'est un peu plus dur de s'y mettre que Black Tapes Podcast, parce que c'est très répétitif. C'est toujours des interactions entre lui et son enquêtrice. Donc du coup, c'est un petit peu froid. Mais le personnage de l'enquêtrice est assez fun, en fait. Elle dit jamais au revoir, elle coupe les conversations en plein milieu, elle est super abrupte, et là, on arrive dans des épisodes où... c'est vachement bien foutu, et on arrive dans des épisodes où, justement, ils se mettent à interagir l'un avec l'autre, parce que, elle s'est sentie surveillée, donc elle veut plus être en ligne, tout ça. Donc c'est vachement intéressant, c'est plutôt bien foutu, c'est parfois drôle, et surtout, ils ont créé leur petit univers... qui est une sorte de NPR régional américain, où en fait, tous les personnages sont des personnages qu'ils ont créés, mais qui interagissent comme interagiraient les animateurs de NPR, les podcasteurs de NPR avec les autres.
Je veux dire, les auteurs de Tanis ont créé leur espèce d'univers.
Leur alter ego.
OK. Parce que c'est de la fiction. Fiction qui ressemble à de la réalité.
C'est
donc ça. C'est juste compliqué.
Et ce qui fait que quand tu les as en interview, ils te donnent l'impression qu'en fait, ce qu'ils vivent, c'est vrai. Donc ils sont toujours dans
leur
rôle.
En fait, c'est Colbert.
Ils font comme Colbert.
Enfin, Colbert de l'époque Comédie Centrale.
Voilà, oui. Ben maintenant, c'était pas trop possible. Du coup, après, j'ai rebondi sur autre chose derrière Tanis, qui s'appelle The No Sleep Podcast. No Sleep Podcast, c'est des pastilles, en fait, des récits qui ont été publiés sur un compte Reddit qui s'appelle No Sleep, qui sont des récits d'horreur d'auteurs amateurs ou semi-amateurs. Il y en a certains qui ne sont pas bons du tout, et limite, bon, voilà, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Pourtant, j'ai des écouteurs, hein, ça devrait bloquer. Hein, mais,
Il faudrait que tu fasses une liste de ceux qui valent la peine d'être écoutés.
Il y en a un particulièrement qui s'appelle Penpal, en 4 parties, sur un gamin qui se rappelle de son enfance et de son interaction avec une sorte d'être maléfique, ou en tout cas une figure d'être maléfique dans son quotidien. C'est horrifique à souhait, mais c'est à chaque fois sur des événements réalistes. C'est pas de l'horreur, il n'y a pas de créatures monstrueuses ou quoi. Ce sont des choses qui pourraient arriver, et c'est juste que c'est traité de manière absolument atroce. Et c'est vraiment, cette série d'histoires est absolument glaçante, et en plus il y a une sorte de lien qui se crée avec le narrateur, qui raconte l'histoire de son enfance et des événements qui lui sont arrivés. Et il y a une vraie empathie qui se dégage avec lui. Et du coup, c'est pas seulement terrifiant, mais c'est aussi très prenant. De toute façon, c'est la base de l'horreur. Il faut d'abord s'attacher au personnage avant d'avoir peur pour eux. Et ce que je trouve très très fort avec le podcast de No Sleep, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment peur devant des séries ou des films. Moi, j'ai peur avec la littérature. La littérature horrifique me fait peur. Mais j'admets qu'au cinéma et à la télé, on peut rajouter de la musique, on peut faire de l'ambiance. Et là, en l'occurrence, c'est les deux choses qui se mettent ensemble. C'est le côté, l'imagination qui travaille pendant toute l'écoute, comme quand on lit un livre, et quand même la mise en forme, la mise en scène des choses, les voix, les sons, qui fait que ça rend le truc absolument glaçant. Et il y a certaines histoires qui sont vraiment très, très efficaces et vraiment terrifiantes. Donc c'est le No Sleep Podcast, ils en sont à 6 saisons, ils font... Ils font une quinzaine d'épisodes par an. Dans chaque épisode, il y a entre 2 et 3, 5 sketchs par épisode.
Mon Dieu, c'est tellement, tellement de temps.
C'est tellement d'horreur.
Attends, moi Scream m'a fait peur, donc
jamais savoir quelqu'un comme ça qui me chuchote dans l'oreille une histoire horrible.
Ah, mais il y a des fois, il y en a même.
Je pense que je fais des insomnies jusqu'à la fin du.
Tu m'en avais parlé notamment, ouais. Donc j'ai commencé à écouter.
Ouais.
Et c'est vrai que moi non plus, j'ai pas forcément peur via le cinéma ou les séries. Bah ouais, mais là il y a quelque chose qui se met en place.
Non, mais d'accord.
Et je suis très contente d'un coup de ne pas habiter à la campagne dans une maison individuelle.
C'est ça, c'est exactement ça. T'as pas envie de te retrouver tout seul chez toi à écouter ça.
Et moi je vais tourner la
Ce qui est très sympa avec ce podcast là, c'est qu'il porte bien son nom. Je mets au défi quiconque de dormir avec ce truc-là sur les oreilles. Et j'espère qu'ils ne m'écoutent pas, les gens du bureau. Mais en fait, je l'écoute au bureau pour éviter de m'endormir. Et je vous assure que ça marche. Par contre, je sursaute beaucoup quand on tape à la porte. Non, c'est une vraie réussite. Bon, après, ça dépend. Les narrateurs ne sont pas toujours les mêmes. Ça dépend du narrateur. Il y en a qui sont vraiment, vraiment glaçants à écouter. Et d'autres, c'est un petit peu plus... peut-être parce qu'ils en font trop ou que ça passe pas, mais globalement c'est vraiment bien fichu quoi, vraiment bien fichu.
Et ben moi, mon obsession solitaire, c'est un peu la même depuis des années. Alors j'ai réussi à contaminer 2-3 personnes et je triche un peu parce qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui est d'accord avec moi.
Et mais, qui a pas été contaminé par toi pour le coup.
Ouais, donc c'est un des trucs sur lesquels on s'est retrouvé.
Entre obsession solitaire et la contamination, là, ça va pas aller.
Anyway, mon Dieu. Mais non, justement, j'allais aller encore plus loin. Justement, dans le genre pas du tout safe for work et pas du tout approprié et d'un goût parfois douteux, Archer, qui est ma comédie préférée. D'ailleurs, je viens de citer un truc par rapport à ça tout à l'heure, c'est vous la voulez. Et en fait, c'est vrai qu'il y a très, 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 très peu de gens qui la regardent. Alors, ça a aussi bonne presse aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont fans. Mais c'est vrai que je l'ai essayé de la montrer à plusieurs personnes. J'ai une copine qui est tombée dedans immédiatement, qui a regardé 5 saisons à l'époque, on était à 5 saisons d'un coup. Moi, je l'ai revue 2-3 fois. Je vais essayer de vous décrire quand même pour ceux qui n'ont pas vu Archer. Alors, c'est une série animée. Pas du tout pour les enfants, mais là, pas du tout, du tout, du tout, du tout.
Tellement pas. Ou des enfants bizarres.
Non, mais
ou pour les rendre bizarres.
Voilà. Donc, c'est une série animée qui est créée par, aide-moi Dominique.
Adam Reed,
absolument. Parce que, vous l'aurez compris, Dominique est l'autre. De toute façon, tu as déjà dit tout à l'heure que ce n'était pas moi qui t'avais contaminé, ce qui était légèrement douteux comme phrasing. Mais bon. Il y a plusieurs choses très spécifiques dans la série. Donc, il y a le ton. C'est un humour qui peut être presque crade dans le sens où c'est très inapproprié, tout simplement, très inapproprié. Il y a l'esthétique et il y a le sujet. L'esthétique, c'est de l'animation en papier découpé, c'est-à-dire que c'est. Ça ne donne pas un effet d'animation 3D du tout, c'est même le contraire. Ça ressemble.
C'est gavé de 3D. Mais, oui, mais tout est dans une esthétique.
Ça ne ressemble pas au dessin animé moderne qu'on voit. Mais effectivement, il y a tout un travail sur la perspective et sur les décors. Mais ça ressemble au niveau style à Mad Men, tout simplement. Il y a un gros truc.
Esthétiquement, oui.
Il y a un gros truc 60s dedans. Par contre, ils ont des téléphones portables et leurs ordinateurs semblent sortis des années 80. Donc, il n'y a clairement aucune intention de réalisme temporel. C'est l'histoire d'une agence d'espions freelance qui travaille soi-disant pour le CIA. C'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, Archer est le meilleur espion. Donc, meilleur espion ne veut pas dire le plus discret. Parce qu'en fait, il sauve toujours tout le monde, mais généralement, il grille la couverture de tout le monde aussi, parce qu'il passe son temps à picoler, à baiser avec des meufs. En fait, en gros, c'est si James Bond enfin, si son comportement était vraiment, les conséquences de son comportement étaient vraiment explorées. L'autre problématique d'Archer, c'est que la patronne de l'agence, c'est sa maman, avec qui il y a une relation compliquée. Bien sûr, la deuxième super espionne de l'agence, c'est son ex, ce qui n'aide pas non plus, qui entre-temps s'est mis avec le comptable parce qu'il avait l'air plus simple, sauf qu'en fait, il est tout aussi sulfureux qu'Archer, mais pour d'autres raisons. C'est, en fait, ce qui est génial, c'est que ça a l'air hyper rentre-dedans, provoque, parce que notamment, il y a des choses très inappropriées dès le premier épisode, des blagues sexuelles, et surtout le style de vie d'Archer qui a l'air d'être un con fini.
C'est-à-dire que la secrétaire du bureau qui aime bien se faire étrangler pendant rapport sexuel jusqu'à l'étouffement, c'est un petit peu... Bon.
C'est pas dans le pilote, ça. C'est un peu plus loin. Non, dans le pilote, c'est tu vois qu'il aime taper les fesses de ses nanas avec une raquette de ping-pong. C'est vrai.
Un truc normal, quoi.
Voilà. Et donc, il y a plein de trucs comme ça. Mais en fait... Alors, il y a plein de trucs. C'est que déjà, c'est provoque. Mais en fait, c'est secrètement pour les nerds. Hein, c'est un secret. En fait, Archer... secrètement c'est un énorme nerd qui ne sait pas gérer le monde et qui du coup n'a aucun filtre et dit tout ce qu'il pense, et il se trouve que c'est un badass espion, donc du coup ben, ce qu'il pense des fois c'est vraiment inapproprié. Et par exemple il a une obsession syntaxique avec la façon dont les gens parlent, les mots, quand les gens utilisent des mots à mauvais escient, ça le rend fou. Il a plein de ressources étonnantes de connaissances et de monomanie et de passion. Et en fait, plus tu connais sa mère, plus tu comprends pourquoi tous les trucs négatifs, c'est clairement pas de sa faute s'il est comme ça. Et c'est en fait assez indescriptible, mais c'est extrêmement jubilatoire. C'est très, 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 très bien écrit. C'est surprenant et il y a une énorme progression des personnages, ce qu'on imagine... Enfin, ils restent mêmes, mais en fait, l'histoire avance et ils avancent. Et ça, vu le style, vu le côté, on est là pour dire faire tout et n'importe quoi, on ne pourrait pas imaginer, mais dès la saison 2, il y a des grosses avancées par tous les personnages.
Et les personnages réussissent à rester humains.
Oui.
C'est-à-dire que c'est... Malgré ça va dans l'outrance tout le temps, mais malgré tout, ils ont des vrais rapports humains entre eux. Derrière l'outrance et derrière les trucs complètement ahurissants qu'ils font.
Okay. Et après, voilà, quand si vous lancez quelqu'un, si vous croisez, quand vous êtes fan d'Archer, un autre fan d'Archer, vous pouvez passer 2 heures à vous lancer des citations et des blagues. Ah, tu te remets là ? C'est génial. Après, malheureusement, quand tu essaies d'expliquer, comme vous venez de l'entendre, la série à quelqu'un, c'est juste là.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Et j'ai montré le pilote, voire. Un jour, j'ai montré. Non, Léa a regardé le pilote toute seule. C'est ça.
Non, on l'avait vu ensemble.
Non, parce que je crois que c'était l'épisode 2 que je t'ai forcé à voir avec moi.
Non, j'en ai jamais vu un toute seule.
Donc j'ai montré le pilote.
Tu m'as montré l'épisode. Et tu m'as forcé par contre à voir l'épisode 2 tout de suite
après.
Un an plus tard.
Oui, c'était un an plus tard parce que justement je voulais lui dire t'as pas aimé le pilote, peut-être que ça marchera mieux avec l'épisode 2. Échec, bide total.
Je suis restée assez insensible au. Mais apparemment j'aime The Goldbergs, donc il faut pas que ce soit aimé autour de moi. C'est pour ça, ça ne va pas être mon humour.
Donc en fait, ton humour est dépendant du...
Des gens qui aiment autour de moi. S'ils aiment trop, d'un coup, ça ne fonctionne plus de la même manière.
Ok. Je ne jugerai pas.
C'est bien, parce que le prochain sujet, c'est les trucs qui nous ont gonflés, donc peut-être que toi, t'as aimé, en fait.
Écoute, commencez à répondre à ça.
Donc, je sais que c'est le mien qui va c'est pas
en tout cas, je conseille à tout le monde de regarder Archer et de nous dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas quelle est la qualité des sous-titres qui existent, il existe une VF. Ma mère a essayé de regarder sur Netflix. Je pense que c'était une erreur.
Archer est diffusé en version française le soir assez tard sur France 4 le samedi, et c'est en version française. Et bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais avec une série dialoguée comme elle l'est, la VF, c'était un peu suicidaire, quoi. Mais on ne peut pas les blâmer, hein. C'est un peu la logique du pays qui veut ça, quoi. Mais, pour moi, c'est difficile de dire la VF est ratée, parce que je ne suis pas persuadé qu'il existe vraiment une VF réussie possible.
Oui, c'est plein de jeux de mots tout le temps.
Peu que j'en ai vu, c'est aussi très ancré dans une culture populaire.
Temporellement, c'est pas du tout marqué, parce qu'il y a des éléments des années 60, même au niveau des adversaires qu'ils ont. Ouais. Un jour, ça va être le cartel, un jour, ça va être
la guerre froide.
Enfin, il y a à un moment, c'est les cyborgs. Enfin, c'est vraiment. quelque part.
La tête de Juliette, quand on a des cyborgs,
c'était. Mais c'est ancré, tu vois.
C'est étrange, je te confirme. Et après, bon, ça dépend vraiment de.
Disons que je peux tomber dingue ou l'autre des côtés. Ouais.
Ah, mais je pense que c'est quelque chose que soit
suite
on adore...
au prochain épisode. De quel côté est-ce que Juliette a fini par tomber? Donc, ok, bah maintenant on passe à la rubrique haters. Donc maintenant on va dire, on va cracher sur des trucs. Alors, Léa, vas-y, c'est quoi le truc qui t'a le plus irrité? Soit le truc spécifique de la visualité, soit la tendance qui commence à te saouler grave.
Archer, non.
Même pas. Non, mais en fait, j'ai même pas non plus une tendance particulière. Je trouve qu'il y a une médiocrité, tout simplement, dans la fiction qui est en train de s'installer. Et que ce soit au cinéma cette année qu'à la télévision, c'est pas foncièrement mauvais ce qu'on voit, mais c'est pas pour autant que c'est bon. Et bon, là, la télé, c'est vrai que ça s'est notamment vu avec énormément de procedural, où on a aussi repris un certain nombre de films pour en faire des séries, parce qu'apparemment, c'est toujours une bonne idée de faire ça.
En même temps, Limitless, c'est finalement mais voilà,
mais c'est, mais c'est ce que j'allais dire. C'était justement le point que j'allais faire, c'est que, assez bizarrement, mine de rien, une des meilleures séries pour moi de cette rentrée, en tout cas sur les grands networks, ça a été Limitless, mais parce que je trouve que déjà le pilote est profondément raté et que les deux premiers épisodes sont chiants à mourir. En revanche, ils ont eu l'intelligence de comprendre que ce qu'ils faisaient et ce qu'ils racontaient n'était pas particulièrement intéressant parce que c'était encore une fois un procedural où quelqu'un arrive dans une enquête policière alors qu'il n'a strictement rien à faire là et qu'à partir de là, bah, ils vont s'amuser au niveau de l'esthétique de la série.
Et de la structure des épisodes.
Et de la structure narrative, et donc de la rendre beaucoup plus intéressante par le format plus que par le fond. Ouais. Donc ce qui fait qu'elle se différencie du reste de ce qu'on voit à l'heure actuelle à l'écran. Ouais.
Mais je suis assez d'accord avec toi, hein, sur la vidéo. En même temps, j'ai l'impression que c'était pire l'année dernière. Et en même temps, je trouve que c'est parce que chaque fois qu'il y a des trucs bien, c'est des fulgurances dans des niches.
Mais je trouve que c'était quelque part pire l'année dernière parce que quand c'était mauvais, c'était profondément mauvais. Cette année, on n'a pas eu de choses qui étaient profondément mauvais à s'en arracher les yeux.
Docteur Ken.
Docteur Ken. Mais ouais, mais bon, mais c'est, une série.
Non, mais tu dis ça à mon œil droit qui a failli sauter. Hein.
Ouais, mais c'est une série sur le combien qu'on a eu depuis septembre.
Non, et puis surtout,
ou même depuis janvier 2015.
Docteur Ken se démarquait aussi par sa médiocrité. Justement, parce qu'en fait, ils refont une sitcom qui a été faite dans les années 90. Moi, je pensais que ce serait vraiment juste crade débile. C'est pas ça, c'est juste
c'est rien.
Boring.
C'est rien du tout.
C'est rien du tout. Donc ça revient à ce qu'elle dit.
Et finalement, il y a eu peu de choses d'annulées au final.
Ah, mais il y a quasiment rien d'annulé. Il y a que Wicked City qui a été annulé au bout de deux ou trois épisodes.
Que j'aurais été curieux de voir du coup parce que ça devait être vraiment mauvais.
Mais ça devait être vraiment mauvais quand tu vois.
Le premier épisode, c'était très mauvais.
Ouais, c'est drôle parce que Marine qui regardait pas les news et du coup je lui filais des pilotes et elle a pas du tout suivi que c'était annulé. Elle fait bon, ça y est, j'ai vu Wicked City. Et j'étais là. Elle dit oh, qu'est-ce que c'est nul. Je fais yeah, ça existe plus. Elle était là. Si j'avais su, j'aurais pas regardé. Désolée. Non, Blood and Oil, ça a toujours pas été annulé officiellement.
Je crois que ça a été officieusement depuis, mais bon, on sait que finalement rien de cette année ne va vraiment perdurer.
Et après, il y a une logique de pas vraiment annuler pour les networks et de laisser mourir le truc parce que de toute façon, ils ont rien à proposer d'autre.
Et puis diffuser les 15 premiers épisodes qui ont de toute façon été tournés ou qui sont en tournage. Donc,
Et c'est dire à quel point ça devait être vraiment nullissime.
C'était leur grand talent de cette année.
Juliette, toi ?
Moi du coup c'est un truc spécifique parce que j'en attendais beaucoup, c'est Fear the Walking Dead, parce que je suis encore une grande inconditionnelle de The Walking Dead, la série originale.
Je te rejoins là-dessus.
Voilà, moi je n'arrive pas,
j'avais vu un seul épisode, je ne juge pas, vas-y.
À m'en lasser, j'arrive pas à trouver ça mauvais malgré tout, et du coup j'attendais beaucoup de la série dérivée parce que je trouvais que le concept était chouette d'aller explorer le commencement en fait, comment tout ça avait... Comment les zombies sont apparus, quoi, comment tout ça a tourné. Et il y avait plein de trucs chouettes qui auraient pu être faits. Et non, la série ne marche pas du tout. Il y a 8 épisodes, il me semble. Et il y a un personnage qui est très bien, que j'ai adoré. Donc, du coup, le pilote m'avait quand même bien accroché. Je m'étais dit, bon, les autres personnages n'ont pas l'air très charismatiques. Mais bon, c'est le personnage du fils, le frère, le voilà.
Moi,
bref,
j'ai pas vu un épisode voilà, de Walking Dead.
Alors moi, vous qui avez regardé, qui nous
trois écoutez. Saisons et c'est bon.
Ah mais si, en fait, j'ai écouté des longs récaps de des trucs pour justement savoir. Ça avait l'air chiant à mourir.
Mais oui, c'est ça. Donc lui, il est
le junkie, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Qui du coup, on s'attend. Enfin, moi, je m'attendais tellement pas à ce genre de personnage dans la série et le point de vue d'un junkie qui a pas du tout ce. Enfin, tu vois, qui a une vision sur le monde et qui a juste un désintérêt total de ce qui se passe. Enfin, je trouve qu'il y avait plein de choses intéressantes qui auraient pu être faites, mais bon, tous les autres personnages sont vraiment pas charismatiques. Il y a des rebondissements, des choses qui arrivent qui n'ont aucun sens. À un moment, ils ouvrent une porte et tu sais qu'il y a juste des milliers de zombies autour. Mais le mec a le temps de courir et de rejoindre les autres pour pouvoir sauver les... Le mec, il court hyper vite, quoi. C'est une série de super-héros. Et donc, et donc voilà, et donc je suis déçue, je suis triste.
Non, mais, c'est, voilà. c'était
mais t'as toujours The Walking Dead,
oui.
Au moins pour te. C'est qu'une
pour
demi-déception alors.
Exactement.
Toi, c'est quoi qui t'a énervé
après la conversation, j'oserais dire The Walking Dead, je comprends pas. Il se passe rien.
Mais les personnages évoluent et c'est, ouais, une, c'est
les,
devenu.
Les seuls
une...
qui évoluent, c'est les zombies. Ils passent. De...
Mais non,
mais
t'as
non,
pas regardé
non,
la série.
Non, non.
Saison 3, c'est bon.
Mais voilà, et c'est là que ça
moi
commence.
Moi qui déteste, j'ai peur des zombies. Oui. Donc je regarde pas, mais j'écoute Andy Greenwald, que dont je parle tout le temps, qui est mon critique préféré, qui a recapé toute la saison 3. Et du coup, j'écoutais les podcasts et il décrivait à quel point il détestait tout dans cette série. Et au début de la saison 5, il fait « Mon Dieu, j'aime The Walking Dead, que s'est-il passé ?»
J'aurais pas le courage.
Non, non, mais juste pour dire que tu peux pas juger les gens qui aiment maintenant, parce qu'apparemment, tous les gens qui ont regardé disent que...
Mais je les juge pas, ils font ce qu'ils veulent, c'est non, juste non. que ça m'emmerde tellement.
Non, mais c'est juste qu'il y a une
légèrement du jugement dans ta façon de dire « Mais pourquoi ?»
J'ai pas dit « Mais pourquoi ?» J'ai fait
« Mais pourquoi ?»
Il y a une vraie amélioration.
Tu verras, ouais, t'as dit, mais pourquoi ?
Moi, je suis pas sûr.
Il y a une vraie amélioration dans The Walking Dead et ça devient une série sur la psychologie des personnages
ouais,
et d'un coup, les.
Mais non, c'était déjà une série sur la psychologie des personnages, c'était
oui,
juste
mais...
une très mauvaise série
mais d'un
sur la
coup,
psychologie
ils l'assument.
Des personnages.
Parce que dans un premier temps, ils étaient vraiment sur ce fil entre. On est une série où déjà on est tiré d'un comic, si on essaye de le faire plan par plan et toute une saison était un livre, ce qui n'était pas. Il se passait pas grand chose, on
non.
est tout à fait d'accord,
non,
mais il y a
non.
que 6 épisodes en même temps.
C'était bien un passage à la ferme.
C'était pas
cool,
mal, hein.
C'était cool, hein.
Mais là, c'est vraiment devenu sur.
La petite maison dans la prairie des zombies.
Ça donne un côté bucolique à la chose.
Zombies, c'est joli. Bon, je pense que nous avons compris que nous avons un clivage.
On va un podcast sur nous, Walking Dead.
Là,
juste. Et je resterai juste à côté en disant. non, non, mon vrai truc, le vrai truc qui m'agace, les gens qui me connaissent le savent, c'est True Detective.
Attends, cette année, t'étais pas tout seul, comme dirait Andy Samberg.
Mais oui, mais ça m'énerve aussi.
La série s'est arrêtée alors qu'il continue à faire des épisodes. Non, c'est même pas la fin de la série. La série est morte alors que c'est même pas la fin de la série.
Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas aimé la première saison, voilà. C'est dit. Je trouvais ça pompeux. Joli à regarder en termes d'image, mais hyper problématique sur la façon de traiter la diversité des personnages.
La question de la femme, on va dire.
L'indiversité voilà. du personnage.
De la femme et même les gens de couleur.
Oui, non, mais des gens de couleur aussi. Mais...
C'est... Donc j'ai trouvé ça assez calamiteux et très, très pompeux, très prétentieux en fait. Une façon de. Une série qui me dit non, mais tu trouves ça pas bien, mais pourtant on est tellement intelligent. Et donc, du coup, j'avais un certain rejet. Et à la fin de la saison 1, que moi je n'ai pas terminé, mais tout le monde était là, ouais, on est un peu déçus. Je me disais, c'est marrant, ça me surprend pas. Et derrière, je me dis, attention au syndrome d'Images. D'Images, tout le monde s'est lâché à 100% sur la première saison, qui est très très bien d'ailleurs. En disant que. Si
c'est bien,
elle est
c'est bien.
Elle est
très très bien. Il y a tellement d'autres séries
c'est bien
dont on
foutu.
A parlé à l'époque.
C'est
oui,
super
c'est
bien.
Très, très bien. Oui, mais on en a parlé beaucoup comme la meilleure série de l'époque.
C'est ça.
Et c'était pas vrai.
C'est exactement
c'est pour ça.
C'est
pour ça qu'en fait.
C'est ça qui est
bien. Mais il y avait plein d'autres choses.
C'est exactement
surtout
ça.
Surtout le fait que ça réinvente les personnages féminins. Et que moi, le personnage de Glenn Close, je le trouve. C'est Glenn Close.
Oui.
Ouais. je trouve finalement beaucoup plus, surtout dans la première saison, beaucoup trop monolithique pour mon goût. Mais.
Et du coup, moi, à ce moment-là, je me disais attention, parce que là, vous êtes en train de vous emballer sur un truc comme ça. C'est un seul auteur, Ça fait sûrement très longtemps qu'il a True Detective en tête, peut-être d'ailleurs même pour un roman et pas forcément pour une série. Là, il se retrouve à la faire en série. Sa deuxième saison, il va falloir qu'il la fournisse en 6 mois. Et vous allez très certainement vous retrouver avec un truc qui va faire plouf en deuxième saison, où tout le monde va trouver ça d'un seul coup mauvais, comme vous avez trouvé mauvais la saison 2 de Damages. Tout le monde s'est lâché. Non, non, c'est génial, c'est super, c'est tellement bien foutu, c'est tellement bien écrit, ah, le mec, il est brillant et tout. Et au final, ils ont réussi quand même à m'énerver derrière, en disant du mal de la saison 2 de True Detective.
Ce que j'allais dire, moi qui ai dit du mal de la saison 1, mais après, dans la saison 2, j'étais impliquée autrement, parce que ouais, je présentais une série, une série d'émissions où on parlait des épisodes avec des critiques. Et en fait, mon truc le plus frustrant, c'est que je passais mon temps à dire aux critiques, mais aussi en lisant Facebook et tout, de dire, ok les gars, je sais que c'est pas la saison 1, en même temps, est-ce qu'on peut parler de ce qu'est la saison, ce qu'est la série, et de ce qui vous intéresse dedans? Parce que si à chaque émission, tout ce qu'on fait, c'est dire pourquoi on est déçu, enfin, ça sert pas à grand chose.
Oui, et puis moi, c'est ce qui m'énervait vraiment, en fait, c'est venant de journalistes, ils devraient avoir déjà compris que ça allait... il y avait beaucoup plus de chances que ça capote que ça réussisse, et d'entendre l'emballement derrière en se disant oh punaise, la saison 2 de True Detective ça va être génial, venant d'un spectateur lambda, je peux le comprendre tout à fait, mais venant d'eux qui sont censés comprendre l'industrie, ça me choque, parce que ça pouvait pas fonctionner. Si ça avait fonctionné, oui, là on aurait peut-être eu un type vraiment génial qui était capable d'enchaîner 2 saisons de suite à tout écrire une série du câble. Je suis désolé, ça j'y crois absolument pas.
Il s'appelle Noah Hawley.
Non.
Il écrit Fargo.
Oui, mais il n'est pas tout seul.
Ou alors
oui.
Il s'appelle Aaron Sorkin.
Oui, mais il n'est pas tout seul.
Quand il est tout seul, c'est pas bien non plus.
Non, non.
C'est
vrai aussi. Noah Hawley, il a une méthode de travail assez particulière. C'est-à-dire qu'il a une salle d'écriture, tout le monde balance des idées, et lui part et écrire, mais avec les idées d'autres
scénarios. Oui, non, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis quand même
voilà. Oui, il ça existe, Noah Hawley, mais il ne travaille pas tout seul.
La seule version, ben oui, bien sûr.
Évidemment que non. Et,
non, ouais. Ce que je voulais dire, c'est vrai que sur True Detective, moi, accessoirement, j'ai trouvé en hate-watching, le premier épisode de la saison 2 à mourir de rire. Mais je sais que ce n'était pas censé, mais c'était tellement bon, quelque part, de voir ça. Mais c'était aussi de voir que finalement, ils avaient perdu leur réalisateur et leur chef-op, qui, pour moi, je fais aussi partie de ces peu de personnes qui n'ont pas du tout aimé la saison 1. Mm-hmm. Et c'est vrai que tout ce qu'il y avait de positif pour moi dans cette saison 1, c'était au niveau de l'esthétique, qui était absolument magnifique. Ouais. Et ça, on ne peut en aucun cas de leur retirer.
Le lieu aidait beaucoup quand même.
Le lieu aidait beaucoup, mais ils ont réussi à en tirer quelque chose. Mm-hmm. Bon, quand on perd une des personnes, en tout cas au niveau de la technique, qui rend...
Suite à un clash,
bah forcément, ça ne laissait pas présager que du bon pour la saison 2.
En même temps, moi, ce qui m'énervait vraiment, c'est qu'il y a plein de gens qui ont écrit ce papier-là. Ah, mais de toute façon, la saison 2, elle sera pourrie avant même d'avoir vu les épisodes. Ce qui, ça, m'énerve tout autant, en fait.
Le fait est qu'il y avait plus de chances qu'il fallait...
du côté de la série pendant toute la saison 2, déjà, parce que moi, du coup, je la regardais avec attention pour faire l'émission. Et que du coup, je voyais des choses qui me plaisaient, des choses qui ne marchaient pas, mais... Après, quand tu t'intéresses, quand tu te plonges dans ça, et du coup, cette espèce de hate-watching est devenu tellement radical et complètement injuste, parce que c'était même pas qu'ils étaient déçus et qu'ils étaient surpris d'être déçus, c'est que du coup, ils étaient déçus, ce que j'appelle maintenant le syndrome Star Wars, c'est qu'en gros, tu te plains de pas... Enfin, du coup, tu cherches pourquoi tu peux te plaindre. Ouais. Et ça, c'est un truc, je suis là, mais... Et
en fait, les deux réactions, je les trouvais aussi insupportables l'une que l'autre. Quoi. L'encensement... immédiat du truc, genre c'est le truc le plus génial qui soit arrivé à la télé, non pas du tout, et derrière c'est oh, c'est le truc le plus pire qui est... bah non pas du tout, non, il y a sûrement bien pire que True Detective. Maintenant comme Léa, moi j'étais déjà mort de rire en voyant le trailer.
Ah oui, mais ça de toute façon.
J'étais à pleurer, quoi. Quand tu vois toutes ces tronches de comédiens connus qui font une... C'est tous des droupies, quoi, avec mention spéciale à... Maintenant, j'ai une moustache...
Colin Farrell,
qui, à la première fois que je le vois à l'image pendant la bande-annonce, je suis littéralement mort de rire. Et j'ai vu... En fait, j'ai essayé, la saison 2, j'ai vu une demi-heure, et quand j'ai vu qu'en fait... À chaque scène, soit je détestais, soit je trouvais un argument, soit j'étais mort de rire. J'ai fait, pourquoi perdre mon temps à regarder un truc pareil, quoi.
Moi, j'avoue que c'est très intéressant pour moi de la regarder avec attention, vu que j'avais eu beaucoup de problèmes avec la saison 1. Mais en même temps, je suis entourée de gens qui avaient beaucoup aimé. Mais heureusement, j'avais vous aussi dans ma vie déjà, où je ne me sentais pas seule.
Pour légitimer.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire au Série Mania où ils ont passé l'épisode, où on s'est retrouvés en petit groupe. Je me rappelle, il y avait Dominique et Léa avec moi. Genre, Léa venait de regarder, et elle fait, mais c'est une blague. Et moi, j'ai oublié que t'es là. Merci.
Ah, mais moi, j'ai regardé la saison 1 en entier pour qu'on ne puisse pas me reprocher de ne pas avoir, ouais, de ouais. ne pas savoir de quoi
moi,
je parle.
Je suis pas allé au-delà du 4, en fait.
Mais je n'ai jamais souffert autant en regardant une série qu'en regardant celle, ah, oui, la, ouais. la
Alors,
première.
Alors, moi, j'ai pas mal souffert dans la 1, la 2, donc j'avais une perspective différente. Mais en fait, j'ai vraiment... Il y a vraiment des trucs qui m'ont intéressée. Et après, voilà, moi j'ai aussi une approche scénaristique. Voilà. Je trouve ça assez fascinant de regarder un truc que t'aimes pas foncièrement, mais d'essayer de voir ce que tu peux y trouver. Et pour le coup, plein de choses qui m'ont dérangée dans la saison 1, notamment l'absence totale de Nana, Rachel McAdams, elle était géniale dans. Mm-hmm. Et son personnage était. Alors j'ai dit, ouais, c'est un mec avec en femme. Non, parce que ses problématiques sont typiquement des problématiques de Nana. Et je trouve que justement, tous les trucs qu'il dit sur ce que c'est que d'être une Nana dans ce truc-là. Même si parfois c'est maladroit, c'est quand même des choses intéressantes et c'est bien loin de beaucoup d'autres trucs nettement pires que j'ai vus ailleurs.
Bien sûr.
Bon, la fin, c'est un peu n'importe quoi et en même temps, non, pas plus que le reste, pas plus que... Franchement, finalement, c'était... Moi, ce qui m'a énervé, c'était les gens qui avaient...
C'est ça, c'est ce qui mérite le plus, c'est ça.
Ouais. C'est l'effet de mode, quoi. Et c'était ça. Là, mais regardez la série ou watch the fucking movie, comme
c'est
les amis qui parlent de Star Wars.
Ou alors ne regarde pas, tout simplement.
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que je n'aime pas The Wire, parce que j'en ai ras-le-bol qu'on me balance à toutes les sauces que The Wire est la meilleure série du monde. Et ça me fait dire deux choses. Un, non, j'aime The Wire. J'aime carrément The Wire. Mais c'est les gens qui aiment The Wire que j'aime pas, en fait.
Mais moi, j'aime The Wire.
Bon, ça va, là.
D'accord.
Mais tu dis pas que c'est la meilleure série du monde.
Bah, voilà, non, c'est Buffy.
Bah voilà.
Je ne l'avais pas regardé.
Ouais, mais David Simon est d'accord avec toi. Ouais,
donc, moi, ce qui m'irrite le plus, donc effectivement, ça va un peu avec cet esprit de... On écrit la critique en regardant l'affiche et le trailer et on décide ce qu'on va penser d'une série. Donc, il va avec le fait de critiquer une série sur son pilote et d'en parler que le jour du pilote, qui va de pair avec la tendance industrielle que j'aime pas trop et j'aimerais bien qu'ils arrêtent. C'est la fausse bonne idée du binge, du fait que Netflix te lâche 13 épisodes d'un coup. Je trouve que c'est une fausse bonne idée. D'ailleurs, Hulu, eux, ils veulent pas le faire comme ça. Hulu, ils le font semaine après semaine. Ça dépend, il me semble, pour toutes leurs séries, en tout cas un certain nombre. Je sais qu'il y avait des fois, quand la série commence à peine, ils en mettent quelques-uns d'un coup disponibles.
Oui, parfois, ouais. deux par deux.
Mais Casual, Mindy, Different People, non. Funny people, bad
difficult.
People, difficult people, c'est ça.
Tiens.
Donc ça, c'était diffusé comme ça. Le problème du binge, déjà, c'est que tout le monde n'a pas le temps de binger. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle de la série une fois par an. Mm. Et un plaisir de sériephile, pour moi, c'est un truc déjà, sans parler du fait que la série s'étire sur le temps, mais c'est aussi que t'as le rendez-vous, t'as l'attente... T'as le fait, enfin, toutes les séries que j'ai bingées, quand je les revois, c'est autre chose, mais sinon, c'est des séries dont je me souviens pas de la même façon. Mmh. Et surtout, du coup, ça veut dire que tout le monde pond un article, et ensuite, on n'ose pas en parler parce qu'on sait pas où les gens en sont. Mmh. T'as vu combien d'épisodes? Est-ce que t'as tout vu? Est-ce que t'as pas tout vu? Ah, mais j'ai tout vu, donc je vais pas en parler, mais du coup, j'en parle jamais. Et du coup, ces séries, finalement, ne sont pas assez présentes dans la conversation.
Non, ce sont des événements, c'est pas des rendez-vous.
Ouais, alors moi je trouve justement que notamment aux États-Unis, ils commencent à dompter un petit peu ce phénomène, notamment avec Jessica Jones.
Mais Jessica Jones est l'exception.
Voilà. Oui, mais c'est aussi une des dernières à être sortie de cette manière-là.
Moi, je pense que c'est parce que le format était tellement différent.
Je pense que
c'est Marvel aussi qui est derrière ça.
Non, je pense qu'il y a aussi le fait que The Man with the High Castle a été diffusé à peu près en même temps. Ouais. Et que donc il y a eu deux binge-watching simultanés. Mais justement, pour Jessica Jones, la majorité de la presse en a quand même parlé épisode par épisode. Alors peut-être pas semaine après semaine, mais on va dire on fait un recap tous les jours ou tous les deux jours. Et donc je crois que la presse commence à...
Ouais, mais en même temps, ça veut dire qu'en deux semaines, c'est plié, quoi.
Oui, en deux semaines, c'est plié.
Et ça, il faut savoir que Jessica Jones, la presse avait, avec plusieurs semaines d'avance, 7 épisodes sur les 13. Donc ça aide beaucoup. Mmh. Et donc ça aide beaucoup à faire ça. Et donc effectivement, là, c'est peut-être Marvel. Mais en général, ça changerait au fait que du coup, malgré tout, tu vois, Enfin, moi, je suis désolée, il y a des... tonnes d'heures de travail qui sont données dans chaque épisode, j'ai pas envie de les bouffer comme ça.
Ouais, mais après, ça ouvre aussi sur un autre truc. Bon, l'avenir dira si c'est positif ou pas, c'est quelque part, ça donne une nouvelle forme d'expression audiovisuelle. c'est que du coup, même si c'est une forme que j'adhère, à laquelle j'adhère pas forcément, la fameuse forme du long film de 13 heures découpé, je pense qu'on en est au balbutiement et du coup c'est très maladroit sur certaines parce que ça fait vraiment un film de 13 heures découpé et c'est, du coup il n'y a pas... Mais du coup ça offre quelque chose de différent narrativement. Je ne l'ai pas vu mais c'est ce que j'ai entendu sur Sense8, c'est que c'était vraiment comme...
Pardon, j'avais complètement oublié. Alors, je n'ai vu que le premier, ouais. Mais je peux parce que ouais. J'écoute assez d'autres gens parler d'autres séries pour avoir donné le bon conseil à la personne en disant il faut regarder jusqu'au 3 au moins.
Oui, parce que t'as une première arche.
Et à partir du moment où tu commences le 4, là tu commences à comprendre où t'es. Moi j'ai regardé le premier, j'étais là. Non, mais en fait j'ai pas le temps. Donc non. Pourtant les Wachowski, je les adore. Lana Wachowski, elle est brillante, elle est merveilleuse.
Et c'est
j'adore.
Surtout Straczynski.
Et c'est Straczynski. Moi je suis une grosse Babylon 5 girl. Je les ai vus plusieurs fois. J'ai les bouquins sur qui m'expliquent toute la chronologie de Babylon 5. Mais,
c'est Straczynski, son travail sur la saison 1 de Sense8, c'est de traiter ça donc comme un film avec les mêmes actes que tu retrouves sur un film mais sur la saison complète.
Non, mais
ce qui fait que les arches sont closes uniquement au bout de 3, 6 et
non, parce que le problème c'est que le pied tu ne comprends rien.
Ben, j'imagine, ouais.
Mais moi je dois avouer aussi que quelque chose qui m'intéresse par contre sur ces épisodes qui sont diffusés maintenant en une fois, c'est que mine de rien il y a un travail en amont qui est fait, des arches qui sont créées, un travail d'écriture qui est fait, et donc on ne peut pas... Enfin, c'est filmé, le produit est clos, quoi. Et donc à partir de là, on ne peut plus, en fonction de voilà, du spectateur. Ben oui, mais mine de rien, c'est aussi.
Moi, ça, je trouve ça dommage. Ça, je trouve que c'est le modèle
certes,
qui nous empoisonne en France.
Et en même temps, je trouve que c'est aussi intéressant, à un moment, de laisser aux scénaristes faire leur travail et essayer de voir, quitte à sur une saison 2... revoir un petit peu les choses à
la... Mais
aux États-Unis, ça se rencontre pas, étant donné que le scénariste est présent à toutes les étapes de production. Quand ça retouche la série, c'est lui qui la retouche. Donc c'est toujours la main du scénariste.
Sauf si c'est les chaînes qui arrivent en disant alors ceci, il faut mettre en avant ça.
Il y a quelques séries à qui c'est arrivé, notamment...
Faut comparer au câble. Hein,
notamment, non mais c'est, il y a quelques séries qui sont arrivées, notamment c'est arrivé en début de... Enfin, tu vois, en début de saison, ça arrive. Enfin, on sait que Rob Thomas, Veronica Mars, notamment, lui a été vachement, finalement... brimé et Joss Whedon dans Dollhouse par exemple, la version de Dollhouse a été vachement contrôlée comme ça, mais malgré tout moi plus je lis, plus j'apprends, plus j'écris, plus je réfléchis sur la question de comment être, faire une bonne série, écrire une bonne série quand j'étais formatrice ou toutes les conversations qu'on peut avoir d'ailleurs avec Dominique sur le sujet, je pense qu'une série devient meilleure parce qu'elle est face à un public,
il faut un retour.
Voilà,
ça, on est d'accord.
Et que du coup, ça, en fait, et que ça l'a fait avancer de façon totalement inattendue, et que y a, pour moi, la pire chose, et c'est pour moi la pire chose, c'est la grosse légende urbaine du sériephile français, c'est de penser que quand t'as écrit ta fin à l'avance, c'est quand les gens te disent, ils disaient ça beaucoup avant, c'est non, mais là c'est bien parce que c'est une série où ils ont déjà tout écrit, comme si ça c'était une bonne chose, et que pour moi c'est tout
et
de suite.
Et là pour le coup.
Pi.
Mais c'est le Straczynski, c'est le cas sur Babylon 5.
Mais tu vois, je pense que c'est même pas forcément une question de fin, mais c'est une question de sur quel axe on va mettre en lumière plus qu'un autre. Et je pense notamment à pas mal de shows de ABC qui avaient bien commencé et qui sont en train de partir.
Non mais ABC, il y a un exécutif à la con, à la tête d'ABC, c'est pas possible. Toutes les séries souffrent des mêmes problèmes.
Mais voilà, et donc là, il y a quand même un problème d'exécutif des chaînes qui font que... Ouais, ce serait peut-être bien de laisser les scénaristes faire. Et en fait, c'est par rapport à ça que je...
J'entends ce que tu dis, mais en fait, je pense que ça, ce serait pas du tout... Enfin, tu vois, que les exécutifs, quand les exécutifs puissent dire ça, c'est une connerie. Mais ça, ils le disent aussi au sein des chaînes quand ils sont en train de les écrire et en train de les filmer. En fait, la seule différence qu'il y a quand tu les fous d'un coup à l'audience, devant l'audience ou pas... devant le public ou pas, c'est que t'as pas le retour du public. Mais les retours des exécutives et des patrons de chaîne existent toujours. Et au contraire, du coup, les exécutives peuvent encore plus imposer leur truc parce que t'as pas le public pour dire « Ah non, nous, ça nous intéresse. » Et tu vois, alors que... la peur des exécutifs est encore pire quand il n'y a pas de public.
Mais le truc, c'est Netflix, c'est vraiment un cas à part parce que là, pour le coup, l'existence même de l'exécutif est complètement remise en question et juste pas utile. Parce que l'exécutif, il est là pour quoi ? Il est là pour que la voix de la chaîne, l'ADN de la chaîne soit respectée dans la série qui soit diffusée. Parce qu'ils connaissent, ils sont censés en tout cas, connaître le public de la chaîne. Donc ils disent non, ça c'est plus pour notre public, ça c'est plus pour notre public. Netflix, c'est pas possible. Le public, c'est tout le monde. Donc il ne peut pas y avoir quelqu'un qui redirige une série. Donc ils sont obligés quelque part, par essence, de laisser le scénariste, ouais, puis la production dans son sens large, faire son travail. Eux, ils ne peuvent rien dire. Sense8, ça ressemble à rien d'autre, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas dire « Non, mais ça, ce n'est pas Netflix. » C'est-à-dire Sense8, l'ADN de Sense8, celui de Jessica Jones, celui de BoJack Horseman, enfin, il n'y a rien qui est commun. Ouais. À part, évidemment, Jessica Jones et Daredevil. Parce
non,
que...
mais je ne suis pas sûre qu'il n'y a rien qui est commun. Il y a clairement une ambition et un désir de... Justement, un désir de, au lieu d'aller en avant de ce qu'on imagine qui est le divertissement plaisant pour le public, on va faire quelque chose où on emmène le public dans notre univers. Ça, je pense que ça, ce serait l'ADN commun des productions originales Netflix.
Oui, oui, des productions originales, attention.
Oui, oui, bien sûr.
Des vraies
productions originales. Non, non, mais bien sûr. Mais, enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que je pense que ça va au détriment, notamment parce que je pense que, tu vois, en fait, rien que l'idée du facteur temps, du fait que parce que tu es proche de la diffusion, toute la chaîne de production fonctionne différemment, tu les tournes au fur et à mesure, et du coup, les auteurs s'habituent à leurs acteurs, les acteurs s'habituent, ouais, à leur équipe. En fait, pour moi, l'alchimie qui se passe dans les séries américaines, la raison pour laquelle on peut regarder beaucoup plus de séries, mmh, américaines que finalement d'autres pays, il y a quelque chose que même dans une série médiocre américaine, on peut trouver des trucs, c'est parce qu'en fait, le processus de fabrication, mmh, entraîne une alchimie qui ne fonctionnerait pas autrement, et que du coup c'est grâce à ça qu'on a que du coup l'un va avec l'autre, et que si, de penser que ça c'est une mauvaise chose, mm-hmm, c'est le problème, c'est qu'on peut pas le reproduire en France parce qu'on n'a pas,
non, c'est pas la même industrie. Mais par exemple, un exemple qui me vient en tête, c'est The West Wing. Si Aaron Sorkin avait écrit la saison 1 de The West Wing tout seul dans son coin, puis après été tourné et diffusé, bah le président, ça aurait été un second coup de taux qu'on n'aurait jamais vu. Parce, ouais, que c'était, ouais, ça le but, ouais, au, ouais, départ. C'était, sauf qu'il voit le pilote.
Ouais,
c'était le personnage principal. Et tout aurait été tourné dans des bureaux fermés.
C'est ça.
Scène, bureau.
Et le pilote a été tourné tel qu'il était. D'un seul coup, le président arrive. Fait, ah non, mais en fait, c'est ça. C'est ça, la série. Et ça, c'est con à dire, hein, mais t'as beau être le meilleur scénariste du monde, tu peux t'en rendre compte que quand ça arrive devant tes yeux.
Ouais. Et c'est pour ça que... Mais j'entends ce que tu dis, parce que c'est vrai que... Et pour le coup, je crois à la conspiration de ABC. Hein, parce que tu regardes Nashville, tu regardes... Alors, Agents of S.H.I.E.L.D., pour l'instant, ça me plaît bien par rapport à deux premières saisons, je me faisais chier comme un rat mort, donc bon. Mais tu regardes Nashville, tu regardes Scandal... Enfin, d'ailleurs, je ne les regarde plus. Toutes ces scènes, elles ont... En fait, c'est... Toutes, et ça fait un an et demi, elles ont toutes les mêmes défauts. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... En fait, ils essayent tous d'accélérer l'action comme dans Scandale, et du coup, il n'y a jamais de vrai enjeu émotionnel.
Exactement.
Et c'est le même dans toutes les séries, quel que soit le genre de la série, ils ont le même défaut. Donc c'est clairement un connard ou une connasse.
Il y a un problème sur leur choix en ce moment.
Ou dans le board de ABC, qui fait tout. Ah non.
Non, mais c'est simple, ils se sont dit, on veut tout comme Shonda.
Oui, sauf que Shonda peut faire ça.
Bah, bien sûr.
Aussi, alors que Nashville, moi, je supportais plus, et du coup, j'ai pas vu la nouvelle saison. Ne me dites rien, ne me spoilez pas si un jour je regarde. Mais...
Bah, je peux essayer de te spoiler, mais je la vois pas, donc je vais te dire des conneries.
On va finir très très rapidement. Alors du coup, c'est un nouveau lightning round où je vous pose. Vous avez le droit de dire deux phrases sur votre truc, moi compris, je vais essayer. Vu qu'on a enterré 2015, juste votre espoir 2016, c'est quoi et pourquoi?
Moi, c'est The Pass, du réalisateur de Parenthood et Friday Night Lights.
Exactement. Qui s'appelle Jason Kitting.
Voilà, je suis nulle pour les pour retenir les
qui
noms.
Est Dieu, en tout cas le mien.
Oui, je suis bien d'accord. Le trailer est très prometteur à mes yeux. Ça a l'air assez sombre.
Ça fait trois phrases.
Voilà.
Donc je vais continuer sur. Moi, c'est pas le trailer, mais par contre, c'est Jason Kitting. Si vous avez vu Friday Night Lights, si vous avez vu Parenthood. C'est The Pass.
Donc c'est aussi ton espoir 2016?
Ben moi, de toute façon, tout ce qui est Jason Kitting, ce sera mon espoir à venir.
Donc et Ash Frozen, qui était aussi très très intéressé par ce trailer, nous a demandé d'en parler, qu'il espère qu'on en parlerait quand il y aura le pilote, donc
on
en parlera.
On va.
Ton espoir 2016?
X-Files, la saison 10.
Nice! Je n'y ai même pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Voilà. Et écoute, moi aussi, je vais clairement regarder. Je n'ai pas vu les 7 dernières saisons, est-ce que c'est grave?
Les 7? ça commence à faire beaucoup.
Je n'ai pas vu la série, en fait.
J'ai vu un bout de la 2, j'ai vu la majorité de la 4.
C'est vraiment dommage, parce que...
Vos emails...
4, 5 et 6, c'est peu le top niveau dans X-Files.
Vos emails d'insultes... Ah non, j'ai vu la 5 aussi.
D'accord.
J'en ai vu une en russe en même temps. Enfin, en Russie.
Tout ça pour dire que tu as suivi et ça avec beaucoup d'attention.
J'ai essayé de la revoir. Le problème, c'est que moi, je suis une sceptique à mort et les délires de Mulder, j'arrive pas en fait. Parce que... Non, mais.
Oui, mais...
Non, mais c'est. Tu sais, des fois, on a des œillères qu'on peut pas s'empêcher d'avoir. Mais Vos lettres d'insultes peuvent être envoyées à icannotsitsil@gmail.com. Donc X-Files, moi c'est vraiment un espoir un peu fou, c'est Angel from Hell qui est la nouvelle sitcom des US. C'est l'espoir que Maggie Lawson ait enfin une vraie série qui lui appartienne. Maggie Lawson qui jouait Juliette.
Ah, c'était bien
Mais moi j'adorais ce truc, personne n'a aimé Back in the Game.
Back in the Game, c'était vachement bien.
J'étais fan. Enfin bon. Et du coup Maggie Lawson donc qui jouait Juliette dans Psych que j'adore depuis un certain nombre d'années a une nouvelle sitcom qui faisait peur à tout le monde, qui continue à faire peur à tout le monde.
Le trailer fait très peur. Après, mais ça veut rien dire, mais bon.
Moi, je vais y croire et c'est mon espoir 2016. Maggie Lawson et une bonne carrière, s'il te plaît. Je veux tellement que tu sois heureuse. Voilà. Okay. Non, j'ai toujours trouvé génial dans ça et je trouve toujours qu'elle n'a pas vraiment assez de place. Et donc, du coup,
Yael, ça fait 4 phrases.
Je pense que ça fait plus que 4 phrases.
Non, c'est 4 très longues phrases.
C'est ça la fin, Juliette. Tu t'es fait avoir.
Faut pas respirer.
Non.
T'as respiré, on a senti les points.
Bon, merci à tous les trois pour cette super conversation qui a duré des heures. On l'espère que ce sera plus court au montage.
Parce que ça fait trop de boulot.
On a quand même passé une année série 2015. On a survécu en tout cas. On espère que l'année 2016 sera un peu meilleure et que l'année 2016 en général sera meilleure. On vous souhaite d'ailleurs une excellente année vu que les autres podcasts de l'année, on n'était pas encore en 2016. Et on vous dit merci de nous écouter, merci de nous parler, merci de parler de nous, ça nous fait plaisir, notamment merci au Daily Mars de parler de nous. Merci à A Virtual Friend pour leur chanson Paris la nuit qu'on utilise comme générique. Notre Twitter est @ICannotSitStill avec un seul L parce que celui avec deux L était déjà pris. Donc ça s'écrit ICA2NO. T-S-I-T-S-T-I-L, mais on peut aussi...
J'ai rien compris.
C'est I cannot sit still. Je ne peux pas rester en place, m'asseoir en place. Bon, vous avez compris. Pour vous trouver sur Twitter et vous dire ce qu'ils pensent de ce que vous pensez, Léa, ton Twitter.
C'est une très bonne question.
Sachant que Léa n'est jamais sur Twitter.
Donc, si vous lui posez des questions, elle répondra pas.
Vous nous les envoyez à Canard Style, on les fera passer à Léa, promis. Juliette.
Par pigeon voyageur.
Je crois que c'est quelque chose comme Léa 8925.
C'est Léa 8925. L-E-A-H 8925. Juliette, ton Twitter.
C'est parce que Léa 8924 était déjà prise, c'est ça.
Je les ai tous essayés un an.
Juliette, ton Twitter, pour que Dominique t'empêche de parler.
Juliette Dodd, Dodd D-O-D.
Les Juliettes avec Juliette deux T. Dominique, ton Twitter.
Ouais, it's the Dom 24-42-67-38. I-T-S-Z-E-D-O-M.
Et moi, c'est Atielka, Y-A-E-L-K-A. Et ben voilà, merci de nous avoir écoutés jusque-là. À très vite et bonne série d'ici là.
Par contre, vous êtes quand vous dites, enfin vous deux quand vous dites bonjour, vous avez jamais vraiment beaucoup d'enthousiasme.
Je sais pas dire bonjour. Bonjour. C'est pas naturel.
Vous êtes un peu claire, spécialiste du genre. Donc...
Attends, faisons un entraînement.
Pourquoi nous deux?
Bonjour. Non, tu vois, t'arrêtes pas à être naturel, c'est ridicule.
Mais non, c'est pas avec à l'enregistrement ça passe beaucoup mieux.
Bonjour.
Bonjour.
We're following you.